18h-20h, Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier 18-20 de la semaine. Au menu, 2 heures d'information avec du sport, la Ligue 1 qui se décante et Roland Garros qui arrive. Et justement, dans la partie média, je recevrai la voix du tennis sur France 2, Nelson Montfort. Et puis dans Tout roule, Pierre de Villeneuve s'attaquera aux 80 km/h, mais pour en dire du bien. Et puis, des dossiers. Hier, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, a réuni à Milan Marine Le Pen et une dizaine de leaders d'extrême droite. Les souverainistes peuvent-ils dominer le Parlement européen ou est-ce un chiffon rouge agité par leurs adversaires, à commencer par le président Macron, sur le thème « Moi ou le chaos ?». Autre question, quel danger pour l'Europe que d'avoir en son sein un groupe anti-Europe ? Réponse avec le politologue Stéphane Rosès. Tout à fait autre chose, vendredi dernier, Uber, le numéro 1 mondial des VTC, est entré en bourse à Wall Street. Valorisé 82 milliards de dollars, le mastodonte inquiète non seulement les concurrents, mais également les taxis traditionnels et les mairies. Guillaume Kérou, jeune chef d'entreprise français, président du Club des entrepreneurs, ni un réac, ni un technophobe, propose une solution radicale. Il faut nationaliser Uber, dit-il. Vous l'entendrez. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous. N'hésitez pas à réagir à l'actu sur Twitter en publiant un petit commentaire avec le hashtag Europe 1. Bienvenue à vous tous. Il est 18h et bonne fin de week-end à tous. Le journal, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal ce soir.
L'appel de la mère de Vincent Lambert devant l'hôpital de Reims pour qu'on n'arrête pas les traitements qui maintiennent en vie son fils. Arrêt qui peut débuter dès demain selon la décision des médecins. Nous serons à Reims et vous entendrez Jean Leonetti, le père de la loi sur la fin de vie, qui dit que le président de la République n'a pas à intervenir. Le ton qui monte entre La République En Marche et le Rassemblement National à une semaine des Européennes. Marine Le Pen et le cheval de Troie de Trump et Poutine pour détruire l'Europe, voilà ce qu'a dit ce matin sur Europe 1 Pascal Canfin. Et puis Alain Delon honoré à Cannes, palme d'or d'honneur ce soir pour le monstre sacré du cinéma français.
Europe 1. Les parents de Vincent Lambert se mobilisent pour que les médecins n'arrêtent pas les traitements qui maintiennent leur fils en vie.
Lettre au président de la République hier, nouveau dépôt de plainte ce matin contre les médecins qui peuvent appliquer cette décision d'arrêt dès demain et cet après-midi. Manifestation devant l'hôpital de Reims où est hospitalisé Vincent Lambert. Vous êtes sur place, Viviane Bergaoui, et la mère de Vincent Lambert a lancé un nouvel appel.
Oui, Viviane Lambert, la maman, sous un parapluie et un bouquet de muguet à la main, s'adresse à Emmanuel Macron, le président de la République. Elle lui demande de s'impliquer et de bloquer la décision des médecins qui doivent arrêter les traitements de son fils demain.
Je demande que Vincent soit transféré dans des unités spécialisées. Vincent n'est pas en fin de vie. On se battra encore et on se battra encore. Ils sont en train de le tuer. C'est de l'euthanasie déguisée. Vincent est dans les couloirs de la mort. Alors qu'il y a des... on lâche des prisonniers, mais c'est une honte, une honte.
La maman vient de sortir de l'hôpital bouleversée après avoir passé environ 1h30 au chevet de son fils. Devant les grilles du CHU, une centaine de personnes l'attendaient pour la soutenir, pour la réconforter. Pour la plupart des membres de la communauté catholique venus prier et chanter la vie pour Vincent. Ici, tous supplient de le maintenir en vie, de poursuivre les traitements. Et ils applaudissent l'annonce des 3 nouveaux recours qui vont être déposés par les avocats des parents et des frères de Vincent Lambert. Une nouvelle procédure qui cible dorénavant les médecins de l'hôpital de Reims.
Jeanne Bergaoui à Reims pour Europe 1. Alors la décision des médecins d'arrêter les traitements s'appuie sur la loi de la fin de vie de 2005. Le vice-président délégué des Républicains, Jean Leonetti, qui est le père de cette loi, juge que cette décision est conforme au texte et que le président de la République n'a pas à intervenir pour maintenir les traitements de Vincent Lambert, comme lui demandent les parents. Jean Leonetti.
C'est donner au président beaucoup plus de pouvoir qu'il n'a. Rappelez-vous que Vincent Humbert, lui, avait en son temps demandé à Jacques Chirac le droit de mourir, au contraire. Et heureusement, le président de la République ne peut pas se substituer aux décisions des tribunaux, aux décisions médicales ou changer la loi. Donc c'est un appel désespéré, mais le Conseil d'État, à 2 reprises, a validé la démarche médicale.
Et si j'ai bien compris, Jean Leonetti, quand je vous écoute, il faut vraiment pour vous que cette bataille juridique autour de Vincent Lambert s'arrête.
La bataille juridique, elle ne s'arrêtera pas, puisque la famille continuera à se déchirer tant que la décision ne sera pas prise dans un sens ou dans un autre. Et je crois que si on doit tirer une leçon du drame et du tragique de l'affaire Vincent Lambert, c'est bien qu'on applique encore mieux la loi et que chacun d'entre nous pensent la mort, désignent une personne de confiance et écrivent ces directives anticipées pour éviter que le drame de Vincent Lambert ne se reproduise. Si vous avez 88 000 personnes par an pour lesquelles une décision médicale d'arrêt des traitements, arrêt du respirateur, arrêt du rein artificiel, si ces décisions sont prises, c'est bien parce qu'on dit on a fait tout ce qui était possible, mais maintenant on pense que ce que nous faisons est déraisonnable. Et si la famille adhère à cette position, bien les choses se passent alors de manière sereine et apaisée. Malheureusement, ça ne sera jamais le cas pour Vincent Lambert.
Jean Leonetti, Fabienne, on a reconnu votre voix qui était l'invité de votre journal de la mi-journée.
Et notez que si Jean Leonetti estime qu'Emmanuel Macron n'a pas à intervenir, la tête de liste de son parti pour les européennes, François-Xavier Mellamy, juge, lui, que le chef de l'État devrait donner son sentiment sur cette question fondamentale. Il réclame que son se laisse du temps, déclaration chez nos confrères de LCI.
À une semaine des élections européennes, le ton se durcit entre les deux listes qui font la course en tête dans les sondages, à savoir le Rassemblement National et La République En Marche.
Et ce matin sur Europe 1, c'est Pascal Canfin, numéro 2 de la liste La République En Marche, qui s'en est pris à Marine Le Pen.
Aujourd'hui, le Front National, c'est l'idiot utile de ce projet politique. C'est le cheval de Troie de Trump et de Poutine pour détruire l'Union européenne en Europe, avec Salvini, avec Orban, avec deux, trois autres alliés européens. Et c'est ça la grande bataille de cette élection. Ce n'est pas un sujet franco-français, on le voit bien aujourd'hui. C'est un affrontement politique mondial. Et face à cet affrontement politique mondial, je le dis aux électeurs qui hésitent à aller voter le 26 mai, qui se disent « mais pourquoi on parle de 60% d'abstention ?» Eh bien, je le dis, ne restez pas chez vous, parce que c'est notre avenir démocratique qui se joue le 26 mai.
Pascal Canfin, qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews Les Échos.
Europe 1. À suivre, on va partir à Cannes où Alain Delon, jamais récompensé sur la croisette, va recevoir ce soir une palme d'or d'honneur.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 18h07, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Il a été 7 fois en compétition à Cannes, mais Alain Delon n'a jamais été récompensé.
Eh bien, ce sera le cas ce soir avec une palme d'or d'honneur que va lui remettre sa fille Anouchka. Et cet après-midi, il s'est prêté au jeu d'une masterclass faisant salle comble, avec un public ravi de partager l'expérience et les souvenirs de ce monstre sacré du cinéma, comme ce jour où, tout jeune comédien, Alain Delon a osé affronter les producteurs alors qu'il ne voulait pas du rôle qu'on lui proposait dans le film Plein Soleil.
Les producteurs commencent à me parler, et moi je dis ce que je pense, gentiment, je dis mais écoutez, c'est pas pour moi. Mais comment vous parlez? Mais vous êtes qui? Vous êtes personne, on vous propose un rôle, vous me parlez d'un autre, mais c'est pas comme ça. Je dis écoutez, vous faites ce que vous voulez, je dis que ce rôle-là, il n'est pas pour moi. Moi, c'est celui-là. Mais qui êtes-vous pour parler comme ça? Vous n'avez jamais rien foutu. Ben, j'ai dit, j'ai peut-être rien foutu. Mais si je dis ça, c'est pas pour moi, c'est celui-là. Et je veux faire celui-là. Le metteur en scène s'énerve un peu, dit, bon, enfin, écoutez Alain, vous êtes avec les producteurs, vous pouvez pas parler comme ça, vous n'avez jamais rien fait. Et à ce moment-là, il y avait Madame Ron et Clément qui étaient au fond de la cuisine, là-bas en train d'essuyer sa vaisselle, et qui dit, René chéri, les petits a raison. C'était fini.
Voilà, et Alain Delon a donc finalement tourné avec le réalisateur René Clément, Plein Soleil, mais en jouant le rôle du méchant et pas celui du gentil qu'on lui destinait.
Et puis on termine avec une nouvelle Formule 1 des mers, comme on dit.
Le bateau du marin Thomas Coville, baptisé au Sable d'Olonne aujourd'hui avec comme parrain l'explorateur Mike Horn, un bateau de 32 mètres qui fait appel à l'intelligence artificielle, tout droit sorti du chantier naval de Vannes et qu'a pu visiter en avant-première Pierre-Baptiste Vanzini.
La silhouette est unique, révolutionnaire. Le cockpit, là où on barre le bateau, on règle les voiles, est passé au centre, devant le mât. Cela permet de mieux équilibrer le navire, de descendre la grand voile au ras du pont. Et ce n'est qu'une des innovations la plus flagrante, née de l'imagination de Thomas Coville et de son équipe de designers. 8 personnes enfermées ensemble pendant des mois pour penser autrement.
Ça se voit que c'est différent. C'est pas que un discours. Ça existe, ça fait 32 mètres de long, ça fait 23 mètres de large, ça fait 35 mètres de haut, c'est visuel. Et quand les gens viennent, ils se rendent compte qu'ils voient quelque chose qui était au début une idée, mais qui existe réellement.
Cette idée est donc devenue, au bout de 110 000 heures de travail, une réalité. Petit à petit, Thomas Coville essaie de dompter cette machine, il est en mer inconnue.
Tous les jours, j'attends la prochaine sortie pour me dire qu'est-ce que je vais apprendre la prochaine fois. Je ne pensais pas que ça allait me sortir les tripes et que ça allait m'émouvoir autant. Quand vous commencez à décoller avec un engin comme ça, la première fois, mais j'en avais les larmes aux yeux. Vous rentrez dans une autre dimension.
Au programme des 4 prochaines années, pas moins de 14 traversées de l'Atlantique et 2 tours du monde. L'un d'entre eux se fera avec Mike Horn, le parrain du bateau, l'homme des défis impossibles. Les Sables d'Olonne, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe 1.
Et puis on a appris ce matin la disparition de Nilda Fernandez à l'âge de 61 ans. On se souvient et on l'entend de la poésie, de la nostalgie des airs de ce chanteur-compositeur franco-espagnol comme Madrid, Madrid.
Quand je parlerai de toi.
Et c'était le journal de Fabienne Lemoal. Merci beaucoup Fabienne.
Europe 1, 18h11.
La météo, c'est maintenant avec vous Valérie Darmon, une météo qui s'améliore mais timidement demain.
Absolument Philippe, et c'est un peu comme aujourd'hui avec la fin des précipitations sur les Pyrénées-Atlantiques en plus. Près de la Manche et de la Bretagne à l'ouest de l'Aquitaine, éclaircies et passages nuageux alternent. Du golfe du Lion à la Provence, malgré quelques ondées possibles vers la basse vallée du Rhône, la journée va se dérouler sous un ciel assez lumineux, mais voilé. Mistral et Tramontane vont souffler entre 50 et 70 km/h en rafale. Sur tout le reste de la France, les nuages vont dominer, il pleuvra par intermittence, ces averses vont évoluer jusqu'à l'orage de la Lorraine, de l'Alsace à la Franche-Comté, aux Alpes et à la Corse, un petit peu comme aujourd'hui. Au lever du jour, le thermomètre affichera 7 à 11 degrés en général. Les maximales seront stationnaires ou en légère hausse tout de même. Aujourd'hui, on est légèrement sous les normales de saison. Il fera 17 à 20 globalement, 19 à 22 sur la Méditerranée.
Merci beaucoup Valérie Darmon, à tout à l'heure.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec vous, Jean-François Pérez, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir.
On va commencer par du tennis, à une semaine tout juste du début de Roland-Garros. On joue cet après-midi la finale du tournoi de Rome.
Oui, avec une affiche de rêve, hein. Rafael Nadal face à Novak Djokovic, l'Espagnol qui revient en forme au meilleur moment pour espérer une 12e victoire à Paris, le Serbe qui s'est montré impressionnant cette semaine. Le score pour l'instant, il est serré. 6-0 pour Nadal dans le premier set, on pensait que ça allait être qu'une promenade de santé pour lui. Mais non, 6-4 Djokovic dans la deuxième manche, mais Nadal vient de faire le break dans le troisième et dernier set. On suit ça, évidemment. Quant à Roger Federer, qui a déclaré forfait avant son quart de finale, touché à la jambe droite, il est désormais attendu à Roland-Garros, où le directeur du tournoi, Guy Forget, croise les doigts. Il voue une admiration sans borne à la légende suisse.
Je fais partie de ceux qui aiment justement le tennis un peu champagne, le tennis facile, le tennis élégant. Comme dans tous les sports, on aime bien voir des virtuoses et des gens qui font des choses extrêmement compliquées et qui le font de manière très simple. Donc oui, je regrette qu'aujourd'hui, ce tennis un petit peu inspiré avec des montées à la volée, avec des coups coupés, aujourd'hui se perdent malheureusement. Et je crois que le jour où Roger Federer arrêtera le tennis, c'est sûr qu'il y aura un manque par rapport à ça.
Voilà Guy Forget, invité de Face aux auditeurs d'Europe 1, des échanges passionnants à suivre ce soir à partir de 20h dans Europe 1 Sport.
Et puis, on va passer au foot, le championnat de France qui élit ce soir ses meilleurs éléments.
Soirée, en effet, des trophées UNFP, l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels. Ce sont eux qui votent. Alors, chez les joueurs, duel attendu entre Kylian Mbappé et Nicolas Pépé. Chez les entraîneurs, entre Thomas Tuchel, le coach des champions parisiens, et Christophe Galtier, celui des remarquables dauphins lillois. Sauf que Galtier, eh bien, il ne se voit pas du tout favori. Il l'a dit à Sébastien Boué.
Est-ce que je suis le meilleur entraîneur de Ligue 1? Je vais être très franc avec vous. Pour moi, le meilleur entraîneur de Ligue 1 est celui qui gagne et qui gagne des trophées. C'est comme ça que je le ressens. On verra bien d'être déjà présent là-bas, c'est très bien. Ça valide la saison du LOSC pour rendre l'équipe performante.
Voilà, et on élira également le plus beau but de la saison. Notre favori de cœur, le Nîmois, TJ Savanier, auteur d'un lob génial de 40 mètres face à Dijon.
Pendant ce temps-là, ça bouge déjà dans les clubs en vue de la saison prochaine.
Oui, nos confrères du JDD annoncent le départ imminent de l'entraîneur de l'OM, Rudy Garcia. Après quasiment 3 ans au club, le président Jacques-Henri Hérault resterait en poste malgré une saison ratée. Camara et Thauvin, qui feraient partie d'une liste de possibles départs, ont affirmé leur volonté de rester à Marseille. À Saint-Etienne, Jean-Louis Gasset serait sur le départ. Enfin, Lyon a officialisé les arrivées de l'ancienne star du club, Juninho comme directeur sportif, et de Silvinho, autre Brésilien, comme entraîneur. Il a notamment joué à Barcelone ou à Arsenal, et il était jusqu'à présent l'adjoint du sélectionneur brésilien.
On va passer au sport mécanique avec une victoire espagnole au Grand Prix de France de MotoGP.
Oui, c'est l'inévitable Marc Marquez, champion du monde en titre, qui s'impose devant plus de 100 000 spectateurs. Le Français Fabio Quartararo prend la 8e place. Pas terrible, me direz-vous. Je vous détrompe, c'est sa première saison dans la catégorie Rennes et il est passé tout près d'une grosse désillusion, donc c'est plutôt pas mal au final. Bilan lucide au micro de notre envoyé spécial Axel May.
Pas d'excuses, départ raté et malheureusement j'ai failli tomber au premier virage. J'ai vraiment fait une de mes premières grosses frayeurs avec une MotoGP. Je pense que c'était mieux de finir 8e que tomber au deuxième virage. C'est sûr, énormément de personnes m'ont dit il faut gagner, il faut faire le podium. C'est pas facile. Il y a tous les meilleurs pilotes du monde dans cette catégorie. On sait que je donne mon maximum et aujourd'hui, j'ai vraiment rien lâché. On a fait un très bon rythme de la moitié jusqu'à la fin de course.
Et l'autre Français, Johan Zarco, n'a pris que la 13e place. Le prochain Grand Prix, c'est en Italie dans deux semaines.
Et puis on termine avec du rugby.
Bonne opération pour Montpellier en top 14, vainqueur du Stade français 42 à 25. Les Héroltais reviennent peut-être dans la course aux phases finales. Pour les Parisiens, c'est terminé. Ce soir, Toulon face à Clermont. Et puis pas de barrage d'accession pour les Bretons de Vannes. C'était l'une des belles histoires de la saison. Astérix en Ovalie. Mais Brive s'est montré plus fort. 40 à 20, les Brévistes face à Bayonne pour une place en top 14.
C'était Journal des Sports. À tout à l'heure, Jean-François, on vous retrouve à 19h avec une imitation de Guy Forget. Je ne vous dis que ceci.
Formidable.
Europe 1. À suivre, à une semaine des Européennes, tandis qu'Emmanuel Macron donne un coup de pouce à la liste de sa majorité, Marine Le Pen, elle, prépare déjà l'après. La présidente du Rassemblement National espère une alliance des populistes européens. Mais est-ce seulement possible? Et que pèse-t-elle réellement? On en parle avec le politologue Stéphane Rosès dans un instant.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, il est 18h17 avec votre premier invité, Philippe Vandel, on va parler politique.
Hier, à une semaine des Européennes, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, a réuni dans un meeting à Milan Marine Le Pen et une dizaine de leaders d'extrême droite. Et on dirait bien que la dynamique est en faveur des souverainistes un peu partout en Europe, pas seulement en France, où le Rassemblement National fait jeu égal, voire dépasse La République En Marche dans les sondages. Bonsoir Stéphane Rosès.
Bonsoir Philippe.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, président de CAP, Conseil, Analyse et Perspective, et enseignant à Sciences Po et HEC. Tout d'abord, comment analysez-vous cette montée de l'extrême droite des populistes, des souverainistes, dans les opinions européennes? Est-ce que c'est la suite d'un mouvement mondial déjà illustré par l'élection de Trump aux USA, de Bolsonaro au Brésil ou le Brexit au Royaume-Uni?
Vous avez raison, Philippe, d'inscrire ça dans un contexte international. Effectivement, on constate au fond que le cours de la globalisation économique, financière et numérique, qui a été entretenu par les différents peuples, leur volonté d'avoir des biens et services à bas coût, accessibles, mais au fond, ont entraîné dans la dernière période l'idée parmi les peuples, de façon de plus en plus importante, d'un dessaisissement de leur destin, parce que au fond, l'idée qui prévaut, c'est que on ne sait plus qui conduit les affaires du monde, et de sorte que la gouvernance néolibérale et les politiques qui sont menées au nom de l'efficacité économique semblent déstabiliser les représentations des peuples qui chacun articule différemment le bon, le juste et efficace. Bref, ils ont un imaginaire, chaque peuple, et Emmanuel Macron disait en septembre dernier que les peuples régressaient à la forme primitive de leur imaginaire. Ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, ils n'en tirent pas de conséquences au plan européen, mais il y a une spécificité européenne. C'est que véritablement, autant par exemple les Français et sans doute les peuples européens sont pro-européens autour de l'idée de l'Europe, ensuite ils divergent sur quel type d'Europe. Et l'Union européenne est sans doute le point le plus abouti de cette construction qui mêle à la fois une idéologie néolibérale et puis y compris une forme d'universalisme à la française, c'est-à-dire que le pouvoir de Bruxelles semble être fait à partir d'un logiciel qui dirait mais si on fusionne des politiques économiques, les peuples vont se rapprocher même si les décisions sont prises à Bruxelles. Or, malheureusement, il se passe exactement l'inverse. C'est en Europe où progresse le plus le nationalisme, le souverainisme, les populismes, le communautarisme et le radicalisme religieux.
Et ceci pays par pays. Début avril, Matteo Salvini a réuni l'Alternative pour l'Allemagne, l'AFD, les vrais Finlandais, le Parti populaire danois, juste quelques-uns. J'en parle parce qu'à cette occasion, il a dit vouloir former le groupe le plus important au Parlement européen. Est-ce que c'est réaliste?
Alors non, ce n'est pas réaliste. Mais c'est vrai qu'il progresse, car au fond, il y a devant lui trois groupes. Le premier, le groupe des conservateurs. Les projections des différents sondages le mettent toujours en tête.
C'est le PPE, bon,
voilà,
Parti Populaire Européen.
C'est là où il y aura la liste
les Républicains.
Des Républicains, conduite par François-Xavier Bellamy. Il y aura en second les sociaux-démocrates, où il y aura la liste du Parti socialiste et de place publique, en espérant qu'ils fassent plus de 5%, qu'ils puissent envoyer des gens là-bas. Ensuite, il y aura les libéraux sociaux, où va sans doute s'inscrire le groupe qui sera le plus nombreux de La République en marche. Et puis arrive en troisième, effectivement, on pourrait dire les nationalistes, parce qu'à côté, il y a un groupe de souverainistes, mais là où ils ont raison, c'est que ce courant progresse continuellement et tout le monde, au fond, va regarder plutôt ce score-là parce qu'ils ont changé de stratégie. On le voit clairement pour Marine Le Pen. Ouais. Leur idée, c'est de dire « nous allons faire bouger de l'intérieur
Ils ne veulent l'Europe. Plus sortir de l'Europe.
Ils ne veulent plus sortir de l'euro. Marine Le Pen a compris que la France n'était pas l'Angleterre, que, comme disait Malraux, les Français ont toujours besoin d'embrasser le monde. Il disait même les croisades avant même les guerres napoléoniennes. Et les autres, au fond, que disent Salvini, Marine Le Pen et les autres? Ils disent, mais on n'est pas contre l'Europe, mais il faut que chacun soit d'abord maître chez soi pour ensuite pouvoir faire des choses ensemble en Europe.
Alors une élection et la politique, c'est pas où que je vais l'apprendre, ce sont également des rapports de force. Est-ce qu'une alliance entre tous ces partis d'extrême droite est possible? Par exemple, donner un exemple, très souvent ils ne sont pas d'accord entre eux. Par exemple, au sujet de l'immigration, Salvini, l'Italien, souhaite répartir les demandeurs d'asile dans toute l'Europe. Et pour citer que, les nationalistes autrichiens ou allemands veulent que les demandeurs d'asile restent en Italie. Comment est-ce qu'ils vont réussir à s'agréger tous ou non?
Alors, vous avez raison. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. D'une part, leur dynamique propre. Elle n'est pas fondée sur le détail dont nous allons parler maintenant. Vous avez raison. Au fond, la force et la dynamique des votes nationalistes ou souverainistes, en tout cas venant de l'extrême droite, c'est on doit être maître chez nous. C'est nous qui devons décider de notre destin. Et puis ensuite, vous avez raison, point par point, il y a des désaccords. Mais ce qui les réunit, c'est-à-dire ce qui les porte, est plus fort que le reste. Et d'ailleurs, on est, vous et moi, étonnés du fait que, jusqu'à maintenant, ce sont les seuls à avoir réussi à monter un meeting européen de différentes, vous avez rappelé à juste titre, hein, 10 nationalités, ouais. Plus Salvini, Marine Le Pen. Donc ce sont les seuls jusqu'à maintenant, alors qu'ils disent d'abord retour aux nations et on verra ensuite pour l'Europe, ce sont les seuls à avoir réussi, en dépit de leurs désaccords profonds, sur tout un tas de points, effectivement, à faire quelque chose ensemble.
Et en même temps, ceci dit, quand même, Viktor Orban, qui est le Premier ministre hongrois, n'était pas à Milan hier. Il a déclaré qu'il ne voulait pas s'associer dans un groupe avec Marine Le Pen, car elle n'est pas elle-même dans un gouvernement. Donc il y a quand même des dissensions.
Oui, et puis il y a un
débat. Où est-ce que vous pensez que ces dissensions vont être
aplanées ? Non, ces dissensions sont réelles. Orban lui-même a un autre sujet qui est, au fond, son rapport de pays à pays, parce que certes, il représente une sensibilité. D'ailleurs, il a beaucoup évolué. Orban, au tout départ, c'était un dissident, mais il a beaucoup évolué. Mais effectivement, son sujet, ce n'est pas seulement son courant politique, c'est son pays, c'est la Hongrie. Et donc, il ne veut pas se marginaliser, même s'il peut y avoir des points en commun, effectivement, avec Salvini et Marine Le Pen. Mais il a un autre sujet. Au fond, il le dit à sa façon. Il dit parti de gouvernement, sous-entendu. Moi, je représente la Hongrie et je ne veux pas, dans les négociations, les rapports, me marginaliser. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois pouvoirs dans l'Union européenne. C'est un peu compliqué. Hein. Il y a la Commission européenne, il y a le Parlement et puis il y a le Conseil de l'Europe, hein, c'est-à-dire les chefs d'État. Et il ne veut pas s'affaiblir de ce point de vue-là.
Alors, les partis populistes européens sont notamment soutenus, épaulés ou cornaqués, appelons ça comme on veut, par Steve Bannon. Je le présente, il a été l'architecte de la victoire de Donald Trump. Il est actuellement à Paris, Steve Bannon, car il dit que c'est là que tout se joue. Et alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que les élections européennes ne passionnent pas les foules. Steve Bannon a fait cette prophétie hier dans Le Parisien. Il dit « l'élection européenne sera un tremblement de terre ». Est-ce que vous suivez sa prophétie ?
Non, ce sera sans doute une secousse pas un tremblement de terre. Au plan français, il y a de fortes chances pour que ce soit la liste Rassemblement National qui arrive devant. Ce qui veut dire qu'après la présidentielle cataclysmique, Marine Le Pen se remet en selle parce qu'elle a trouvé une meilleure orientation, plus acceptable pour l'imaginaire français en matière européenne, parce qu'elle partait de loin, mais on a un peu oublié qu'elle était déjà en tête aux dernières européennes. Donc, sa présidentielle a été tellement catastrophique que le seul fait qu'elle soit devant à nouveau, c'est presque effectivement pour elle, c'est une victoire. Et Steve Bannon, son sujet à lui, c'est que c'est un idéologue. C'est-à-dire, il veut déployer en Europe ce que Trump a réussi aux États-Unis. C'est l'idée qu'il faut arrêter avec le multilatéralisme, il faut revenir à l'unilatéralisme. Et de son point de vue populiste, ce sont les peuples qui font les nations. Et donc, il faut en revenir au nationalisme, au populisme. Et c'est comme ça que, par exemple, on peut expliquer qu'il a soutenu les Gilets jaunes.
Merci beaucoup Stéphane Rosès. Je rappelle que vous êtes politologue, président de CAP, Conseil, Analyse et Perspective, enseignant à Sciences Po et HEC. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Merci Philippe Vandel.
À suivre, il faut nationaliser Uber et plus généralement toutes les plateformes de VTC. Une proposition qui paraît banale et bien française, moins quand on sait qu'elle sort de la bouche du président du Club des Entrepreneurs. Un immense réseau, on va demander à Guillaume Kérou d'où lui vient cette idée dans un instant.
Vous écoutez votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Philippe Vandel.
Il est 18h28, c'est l'heure du rappel des titres. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Manifestation devant l'hôpital et nouveaux recours juridiques. Les parents de Vincent Lambert continuent de se battre pour leur fils. Des actions à la veille de l'arrêt annoncé par le médecin traitant des traitements qui le maintiennent en vie. Un quart de touristes pris pour cible en Égypte, près des pyramides de Gizeh au Caire. Un engin a explosé au passage du véhicule. 17 personnes ont été blessés. Les élections législatives anticipées en Autriche se tiendront en septembre prochain. Décision du chef de l'État au lendemain du scandale politique qui a conduit à la démission du vice-chancelier d'extrême droite et fait éclater la coalition. À la mort du chanteur franco-espagnol Nilda Fernandez à l'âge de 61 ans, il avait notamment chanté Nos fiançailles ou encore Madrid, Madrid. Il souffrait d'insuffisance cardiaque. Et puis ce sera l'événement de la soirée Alain Delon sur le tapis rouge à Cannes. L'acteur recevra une palme d'or pour l'ensemble de sa carrière et ce malgré les protestations des associations féministes.
Merci beaucoup Sophie, à tout à l'heure pour votre journal complet à 19h.
Europe 1.
La météo, c'est évidemment avec vous Valérie Darmon. Cette semaine, on annonce un temps assez mitigé et contrasté. C'est vous qui l'annoncez.
Et oui, lundi et mardi, vous connaîtrez encore des averses dans l'Est, en marge d'une dépression donc qui se comble lentement sur l'Allemagne. C'est celle à laquelle on doit la pluie d'aujourd'hui. Comme aujourd'hui d'ailleurs dans l'Ouest, vous bénéficierez donc de plus en plus d'éclaircies. Mercredi, le beau temps va revenir sur toutes les régions de la Normandie aux Pyrénées. Et dans l'Est, vous serez toujours un petit peu arrosé. Jeudi, c'est la plus belle journée de la semaine pour tout le monde. L'anticyclone s'étend à toute la France. À partir de vendredi, nouvelle arrivée des perturbations atlantiques, nouvelle vague pluvieuse et orageuse, là aussi sur l'ensemble du pays. Et donc, ce sera pluie pour le week-end prochain, ce sera le programme. Jeudi, ce sera la journée la plus douce de la semaine aussi, avec 20 à 25 degrés du nord au sud, un pic de chaleur annoncé en Aquitaine et des maximales proches de 28 degrés dans l'après-midi.
28 degrés, ça commence à faire rêver. Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe 1, 18h31, ce grand journal du soir se poursuit avec vous, Philippe Vandel et votre invité. On va maintenant parler business et puis on va finir par parler politique.
Vendredi dernier, Uber, le numéro 1 mondial des VTC, ce sont les véhicules de tourisme avec chauffeur, est entré en bourse à Wall Street pour l'une des plus importantes introductions en bourse de l'histoire. Uber a été valorisé à 82 milliards de dollars, ce qui fait de lui un mastodonte et ce qui inquiète non seulement les concurrents, mais également les taxis traditionnels et les municipalités. Bonsoir Guillaume Kérou.
Bonsoir.
Vous êtes chef d'entreprise, patron d'Idaxis qui est le 15e recruteur français. Vous avez permis à plus de 10 000 personnes de créer leur emploi. Vous êtes également président du Club des Entrepreneurs, donc vous n'êtes pas réac ni technophobe, vous serez même plutôt 3.0. Et pour Uber, vous avez une solution radicale pour laquelle vous avez écrit une tribune dans le JDD. Je vous laisse la dire.
Il faut nationaliser Uber. En tout cas, s'inspirer de ce modèle de plateformisation d'une partie de notre économie et permettre à l'État de redevenir le fort dans cette révolution numérique qui est en train de bouleverser totalement notre économie.
Alors, vous ne manquerez pas d'être critiqué par les pro-libéraux, je vais me faire leur porte-parole. Ça, c'est bien la France. Chaque fois qu'on invente une nouveauté qui marche et qui rapporte, on veut soit la taxer, soit la nationaliser. Ce qui est votre cas, que leur répondez-vous?
De toute façon, la révolution numérique, elle est en marche. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plateformes vont s'ubériser entre elles et que le risque qu'on a, c'est que la France et l'Europe soient prises en étau entre, d'un côté, les géants numériques américains, les GAFAM, les fameux GAFAM, qui pèsent plusieurs milliers de milliards, et les BATX, donc leur équivalent chinois. Et nous, au milieu de ça, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? Pas grand-chose.
Non mais ça, j'ai bien compris. Mais qu'est-ce que ça changerait, le fait que quand j'appelle mon VTC, il soit nationalisé?
Non, mais dans l'idée, c'est de permettre, aujourd'hui, on a vu un certain nombre de privatisations, de revers, de médailles de l'État dans un certain nombre de dispositifs. L'industrie du numérique, c'est l'industrie du futur. Il faut donc permettre à l'État de reprendre des participations dans ce qui va fonctionner et faire tourner l'économie demain.
Mais attendez, pardon de cette question de Béotien, mais là on n'est pas dans l'industrie du numérique, on est dans l'industrie du transport, et même si je voulais être un peu vulgaire, on est dans l'industrie de la bagnole.
On est surtout là dans l'industrie des plateformes.
Ah bon ?
Plateformisation de l'économie, aujourd'hui ça représente un petit chouïa de notre PIB, demain ça sera 50% de notre économie mondiale. Donc il faut permettre à l'État de pouvoir investir. Donc là, on a vu, par exemple, on a récemment un fonds qui a été créé pour lutter contre d'autres plateformes Netflix et investir dans l'industrie de la culture.
Ah, mais parce qu'on
est aussi... En fait, tous les secteurs traditionnels sont bouleversés. C'est ça le vrai sujet. La mobilité est un sujet crucial en termes de souveraineté numérique.
Alors, vous dites que les plateformes de VTC vont se concurrencer, même subériser, faire baisser les prix presque jusqu'à la gratuité du service, vraiment?
Non, mais aujourd'hui, ces plateformes-là ne sont pas rentables. C'est non plus une course à la compétition entre différentes plateformes. Elles ne sont pas rentables, elles ne seront probablement pas rentables. On est dans une course à la donnée, à la data, et c'est là, effectivement, où l'État doit reprendre la main pour trouver un équilibre.
Alors, pour vous donner raison, j'ai découvert en préparant ce dossier qu'Uber travaillait à perte. Je vais citer le magazine Marianne de cette semaine. Uber est en perte et crame 3 milliards d'euros par an. Pour quelle raison? Vous l'avez dit, c'est parce qu'ils prennent nos données.
Ils tablent sur la valorisation future qui aujourd'hui a pas mal dégringolé.
Tout n'est pas rose chez Uber. L'introduction en bourse a été quand même une déception. L'action a dévissé dès le premier jour. Elle a perdu près de 10% de sa valeur initiale. Pour quelle raison?
On est sur un marché qui est très tendu. Je l'ai déjà dit, ça pèse près de 100 milliards, le marché du transport de personnes. Et donc, c'était la valorisation affichée par Uber, sachant qu'il y a d'autres plateformes. Donc, forcément, en bourse, à l'introduction, on a une valeur forte qui dévisse et qui, aujourd'hui, tombait quasiment à la moitié de cette valorisation.
Autre difficulté pour Uber, partout dans le monde, la régulation se durcit, les actions en justice se multiplient, notamment pour requalifier le rôle des chauffeurs et leur accorder, par exemple, c'est en France, mais dans plein d'autres pays, de vrais contrats de travail. Ça va mener à quoi, ça?
Ça va mener à une économie qui est bloquée. On va devoir trouver des solutions alternatives. Et les solutions, me semble-t-il, sont du côté du 26 mai, où va falloir une Europe forte avec des entreprises européennes et non pas franco-françaises fortes, et donc de réinvestir de manière importante dans ce numérique.
Je ne m'attendais absolument pas à cette réponse. Je pensais que vous alliez me dire le but d'Uber et de ses sociétés, c'est la voiture sans chauffeur pour pas avoir payé de salaire et en étant certain qu'ils ne seront pas en grève. Et vous me parlez des élections européennes. La voiture sans chauffeur, c'est pas l'avenir.
Non, mais aujourd'hui, Uber, effectivement, il travaille sur tout un tas de solutions pour retrouver effectivement la valorisation escomptée. Sur la mobilité, on est à 100 milliards, donc ils ont trouvé tout un tas d'alternatives, les trottinettes, tout un tas de mobilités alternatives.
Est-ce qu'il faut, selon vous, étendre ce principe des nationalisations à d'autres secteurs?
Il faut, à un moment donné, où l'État se désengage un certain nombre d'actifs, trouver de nouvelles formes d'investissement.
Alors moi, je vais même vous parler des anciennes. Avant, l'annuaire, c'était un service public, comme les renseignements téléphoniques. Je me souviens, on faisait le 12, et c'était public, et ça gênait personne. Au contraire, est-ce que vous trouvez normal, que, par exemple, que Google soit un service privé? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un moteur de recherche public? Ou est-ce que là, je vis dans un monde fictif?
Le problème de ces sujets-là, c'est qu'on arrive à un problème de souveraineté numérique. On a l'exemple du Google Maps chinois détenu par Alibaba, qui a créé une plateforme concurrente qui permet de trouver et de localiser son chauffeur, et ce qui a créé un dévissage de la première plateforme Didi de VTC chinoise.
Pour quelle raison ils ont dévissé?
Ça a dévissé parce que ces géants du numérique, concurrence sur le domaine des data, ces plateformes de VTC.
Vous avez déjà rencontré le président de la République?
Oui.
Vous l'avez dit que vous souhaitiez qu'on nationalise Uber ou qu'on crée un service national de VTC?
Je ne lui ai pas dit directement, mais je lui ai remis mon ouvrage qui parle de ces nouvelles formes de capitalisme. Et on peut imaginer des solutions alternatives.
Je vais citer votre ouvrage, ça s'appelle Startup République, Liberté, Égalité, Prospérité, c'est au Cherche Midi. Merci beaucoup Guillaume Quirou d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, patron de Didaxis et également président du Club des Entrepreneurs.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, mon invité média, c'est le journaliste sportif préféré des Français, même si on préfère lorsqu'il parle une autre langue, vous avez deviné, je parle bien sûr de Nelson Montfort qui rempile pour une nouvelle saison de Roland-Garros à partir de la semaine prochaine. Oh yes. A tout de suite, balle neuve.
18h, 20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Une bonne fin de journée à tous, il est 18h40, l'heure d'ouvrir notre page média sur Europe 1. Et maintenant, Philippe Vandel, vous recevez le journaliste sportif préféré des Français.
Bonsoir Nelson Montfort.
Bonsoir Philippe.
Vous êtes journaliste sportif, la voix qu'on reconnaît, la voix de l'athlétisme et du patinage sur France 2, mais également la voix du tennis. Et justement, Roland-Garros démarre lundi avec les qualifications qu'on peut déjà suivre sur le site de France Télévisions. Vous y serez ou pas encore?
Alors pas encore pour les qualifications, mais à partir du dimanche 26, dans une semaine, in extenso.
Évidemment, les vedettes, elles n'arrivent pas tout de suite, elles arrivent après. Le tournoi, à proprement parler, démarre le 26 mai. Ça va durer jusqu'au 9 juin avec des chiffres ahurissants. L'an passé, Roland-Garros a battu son record de fréquentation avec plus de 480 000 spectateurs. L'audience à la télé a suivi plus de 32,1 millions de téléspectateurs cumulés. Et pour la radio, je vais le citer, Europe 1, c'est la radio officielle du tournoi. Et pour vous, pour France Télévisions, Nelson Montfort, quelle nouveauté cette année?
Finalement, nous sommes tous les deux les médias officiels, Europe 1 pour la radio et nous pour la télévision. La principale nouveauté, comme vous le savez, c'est le nouvel aménagement du cours central Châtrier et puis la construction du nouveau cours Simone Mathieu, du nom d'une ancienne championne. Et là, vraiment, géographiquement, esthétiquement, c'est une merveille parce que c'est un cours incrusté dans...
creusé dans le sol.
Creusé dans le sol, exactement.
Comme les baignoires dans les hôtels de luxe.
Exactement, ou alors les bains romains d'il y a de l'Antiquité. Exactement.
Chacun ses références. Exactement. Alors, le Châtrier, il y a eu des gros travaux sur le cours, c'est le central, c'est ça le
Châtrier.
Absolument. Le plateau va être sur un nouvel emplacement, il sera où? Et qu'est-ce que ça va changer? Alors, pour nous qui regardons?
En fait, pour les téléspectateurs, ça ne changera pas grand-chose. D'ailleurs, la capacité du cours central restera à peu près la même en nombre de spectateurs. En revanche, que ce soit pour les médias, les studios et pour les spectateurs, le cours Châtrier sera beaucoup plus confortable à l'extérieur. Il y aura beaucoup, beaucoup plus de place. Et je vous invite vraiment à venir vous rendre compte sur place.
La cabine commentateur va également être déplacée.
Je n'ai pas encore, je n'ai pas encore vu l'installation définitive, mais ce que je sais, c'est que la cabine commentateur, qui était déjà assez grande, sera encore plus grande, de même que le plateau de présentation, de même que le studio d'interview où j'exerce.
Et alors, vous serez où, vous?
Dans le studio d'interview, justement, à la sortie du cours central, qui aujourd'hui est un studio d'interview digne de Hollywood. Je n'exagère. Oui, c'est très, très bien. Je vous invite, mais comme vous serez sur place, invite à venir me rendre visite. Ce que j'ai vu ne correspondra pas au résultat final, puisque c'est vrai qu'à moins de 24 heures, l'ouverture des qualifications, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de travaux, de grues, de chantiers, etc. Mais je fais confiance à nos amis de la FFT pour avoir tout terminé pour dimanche prochain.
La Fédération Française de Tennis. Voilà. Alors, j'ai lu que vous alliez également avoir une Spider-Cam comme Spider-Man, une caméra araignée. Vous connaissez le principe?
Je connais le principe.
Allez-y, parce que ça moi, je ne connais pas. Sais ce qu'est la Netcam. C'est une caméra qui est suspendue par des filins et qui peut se balader.
C'est à peu près la même chose, sauf qu'elle va beaucoup plus vite. Parce que nous, si vous voulez, non seulement nous montrons le tournoi, mais nous montrons également Paris. Ce tournoi représente la ville de Paris dans ce que je pense elle a le mieux à offrir. J'ai d'ailleurs coutume de dire que l'été commence à Roland-Garros. Je crois que ça sera encore plus le cas cette année.
Quel effet ça fait, j'y pense à l'instant, que la balle soit aux couleurs des gilets jaunes?
Ah, j'avais pas pensé à ça.
Je viens d'y penser à l'instant.
La couleur jaune avait quand même précédé depuis assez longtemps, puisqu'en fait, ça date de pratiquement 1970 pour une meilleure captation à la télévision.
À l'époque où la télé est en noir et blanc.
Exact.
Il y aura des nouveautés aussi à l'antenne. Le journal de Roland Garros qui va être présenté par Flore Maréchal. Pour qui ne la connaît pas, qui est-elle?
C'est la co-présentatrice de l'émission Tout le sport. Elle présente en général le week-end. Mais c'est une fille ex-France Info. C'est une fille très sympa avec beaucoup, beaucoup d'allant et de dynamisme.
En général, les gens qui arrivent de France Info ont beaucoup de talent. Laurent Luya sera également en plateau. Il y aura un nouveau commentateur, Mathieu Lartaud. Mais Mathieu Lartaud, moi je le connais.
Vous le connaissez, commentateur de rugby, mais passionné de tennis.
Ça, c'est ma question.
D'ailleurs, ce n'est pas la première année. Ça fait déjà, je dirais, 3-4 ans qu'il commente avec nous le tennis. Et il aime autant le tennis que le rugby, ce qui n'est pas peu dire.
Alors, vous allez lancer, Nelson Montfort, un nouveau jeu, un défi sur Twitter et sur Facebook, parce que vous êtes très centré France Télévisions sur les réseaux sociaux. Ça va s'appeler, il y a un hashtag, commente avec Nelson, racontez le principe.
Ça peut être un match, bon, essentiellement avec Raphaël Nadal, parce que qui dit Roland Garros dit Raphaël Nadal. Raphaël Nadal peut-être contre Gaël Monfils ou Raphaël Nadal contre Novak Djokovic ou autre. Et donc la personne commente ce match. Mais commente ce match évidemment avec des effets de son et puis également avec des effets d'image. Donc nous allons récompenser à la fois l'image et le son. Et la récompense, effectivement, c'est de passer, on va dire, une journée avec moi au stade Roland-Garros.
Ah mais attendez, j'ai même lu mieux. Vous n'êtes peut-être même pas au courant.
Dites-moi.
La personne va commenter un match le premier jour avec vous sur France TV Sport.
Oui, pas sur le canal officiel. France 2-3, mais sur France TV Sport, sur le site numérique. Et je pense quand même que, ça, vous savez, ça peut même susciter des vocations. Et qui sait, parce qu'on a vu beaucoup, beaucoup de jeunes talents, au-delà de l'humour, parce qu'on va récompenser évidemment l'humour, mais ça peut être une rampe de lancement.
Un mot du tournoi, du jeu, c'est la fin de la génération Nadal-Djokovic. Ils sont en ce moment en petite forme et ils se font battre par des nouveaux venus.
Je mets quand même un petit bémol à ce que vous dites, Philippe, parce que là, on se rend compte quand même que les tout récents tournois, bon, Nadal s'est fait plutôt éliminer en demi-finale, pas au premier tour. Et là, vous avez vu qu'il est quand même maintenant en pente ascendante, je dirais juste au moment où il faut, de même que Djokovic, qui à Madrid a gagné son premier tournoi depuis l'Open d'Australie. Je ne serais pas étonné de voir ces deux-là en finale.
Alors, le dossier de presse de France Télé porte ce titre. Roland Garros à la croisée des générations, ça vaut aussi pour les équipes.
Pour les équipes de joueurs et peut-être pour les équipes de commentateurs également. Et je trouve ça très, très bien. Je trouve ça très sain. Je pense que je représente en toute modestie quelque chose dans la diffusion de ce tournoi de Roland-Garros. Et la jeune génération, comme Fabien Lévesque, comme Mathieu Lartaud, que vous avez cité, représente aussi quelque chose. En plus, il se trouve que nous entendons très bien.
Alors, pardon de vous poser la question, mais fin janvier, début février, une rumeur qui est apparue qui disait que France Télé voulait se débarrasser des présentateurs historiques dans un souci d'économie. Il y avait votre nom, il y a celui de Patrick Montel, qui était cité dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Où en êtes-vous?
Eh bien, écoutez, Philippe, je vais vous répondre très honnêtement. Sondage après sondage, il semble que je sois le journaliste de sport préféré des Français. Je travaille sur une chaîne de service public. Il me semble donc que le public a son mot à dire. Et je peux vous dire que j'ai reçu de très gentilles et fortes assurances de la part de ma direction.
Vous voyez continuer combien de temps? Je dis ça, vous semblez,
je ne sais pas.
Vous semblez increvable.
Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Vous savez, bon, il est évident que là, depuis que nous avons obtenu les Jeux de Paris 2024, c'est vrai que c'est un petit peu en ligne de mire, mais je ne fais pas du tout une obsession de cela. Je pense que le vent me décidera à prendre la bonne décision.
Alors, tout à fait autre chose. Vous venez de publier un livre. Et ça parle, je me dis, mais c'est pas possible, ce livre est un ovni. Oui, mais ça parle d'ovni. Racontez, c'est
je
quoi
ce bouquin?
Je suis
peut-être un ovni de l'audiovisuel.
Non, mais est-ce que c'est ça a à voir avec ça, justement?
Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une passion, c'est une de mes deuxièmes passions, de même que la musique et autres. Et c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par l'espace. Et qui dit intéressé par l'espace, dit être intéressé par, effectivement, des phénomènes qui n'arrivent pas tous les jours. C'est un travail d'enquête que j'ai mené avec Ivan Kiryov. C'est un livre qui est sorti aux éditions Michel Lafon, qui s'appelle « Sommes-nous seuls ?». Il est évident que si la réponse était oui, il y aurait pas de livre. Donc la réponse pour moi est non, mais c'est extrêmement bien documenté avec des témoignages très très forts qui vont jusqu'à des pilotes de la NASA.
Et vous-même, vous en avez déjà vu?
Oui, j'en ai vu un effectivement il y a 25 ans, il y a même près de plus de 30 ans, qui m'a donné envie de m'intéresser à ce phénomène et plus tard d'avoir, je pense, la maturité nécessaire pour écrire ce livre.
Merci beaucoup Nelson Montfort, journaliste sportif, la voix du tennis, mais pas seulement, mais sur France 2. On vous attend pour Roland-Garros et signal aux auditeurs que ce soir, à 20h, Guy Forget, le patron du tournoi de Roland-Garros, sera face aux auditeurs d'Europe 1. Ce sera juste après ce 18-20.
Europe 1.
À suivre, notre chronique auto, c'est Tout roule de Pierre de Villeneuve et il va revenir sur la fin annoncée des 80 km/h sur les routes secondaires. Il est content ou il n'est pas content? Réponse dans un instant.
Votre grand journal du soir, c'est aussi le dimanche un petit peu avant 19h sur Europe 1, un son, un morceau choisi aujourd'hui. Trois initiales, un collectif. Le premier album est disponible depuis le 12 avril et vous y retrouverez ce titre Genius. Voici donc le super groupe hallucinogène LSD, D comme le producteur Diplo, S comme la chanteuse australienne Sia et le chanteur britannique Labyrinth. LSD, pas la drogue, hein, le groupe de musique. Et quand la musique est bonne, c'est vrai qu'elle peut être addictive. Genius à l'instant sur Europe 1. Vous êtes peut-être au volant et vous écoutez Europe 1, c'est parfait, 18h54. C'est l'heure de Tout roule.
Tout roule, c'est la chronique automobile de Pierre de Villeneuve avec nous sur Europe 1. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Et aujourd'hui, vous revenez sur une mesure qui concerne l'automobile. C'est votre chronique, accessoirement la moto, mais qui fait la une de toute l'actualité, généraliste et même politique. La fin annoncée des 80 km/h sur les routes secondaires, c'est voulu par le Premier ministre. C'est lui qui l'a annoncé.
C'est Édouard Philippe, hein, je le cite. Si les présidents de conseils départementaux souhaitent prendre leurs responsabilités, je n'y vois aucun inconvénient. Ça veut dire quoi en français dans le texte? Ça veut dire qu'Édouard Philippe garde la norme qui est celle du 80 km/h au niveau national, mais les présidents de conseils départementaux ont le pouvoir de relever et donc de revenir aux 90 km/h sur certains tronçons, hein, donc pas partout, quitte à en assumer quand même les conséquences en matière de sécurité routière.
Alors, d'un mot avant de rentrer dans les détails, est-ce que pour vous c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ce revirement du Premier ministre?
Alors, à mon avis, bah, c'est une mauvaise nouvelle.
Politiquement, qu'est-ce que ça signifie?
Politiquement, c'est pas mon rayon, Philippe. Hein.
Alors, techniquement, on se souvient que le mouvement des Gilets jaunes avait démarré, entre autres, contre cette mesure.
Oui, oui. Alors effectivement, contre cette mesure, c'était l'opinion majoritaire du mouvement contestataire qui avait effectivement démarré. Donc, il faut croire que après s'être rangé à l'avis de ceux qui sont les pourfendeurs, les défenseurs de la sécurité routière, Édouard Philippe se range à ce mouvement majoritaire, le mouvement contestataire.
Alors, j'arrive à la question qui concerne la plus importante, puisque c'était pour ça que Édouard Philippe avait pris cette position, l'argument avancé, la sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, la sécurité, il faut quand même le rappeler. Si vous arrivez effectivement 2 minutes ou 3 minutes en avance parce que vous avez roulé à 90 au lieu de 80, la vérité, c'est que la distance de freinage, ça demeure 13 mètres de différence entre 80 et 90 km/h.
C'est beaucoup ou c'est peu, 13 mètres?
Bah, 13 mètres, c'est, vous voyez la taille d'une voiture. Hein. Ouais. Une voiture, ça fait quoi? Ça fait entre 3 et 4 mètres, ça dépend des voitures. Mais bon, 4 fois 3, 12, voilà, c'est, vous avez 4 voitures de 3 mètres de long ou 3 voitures de 4 mètres de long pour une distance de freinage. C'est énorme en ce qui concerne un enfant qui déboule, une voiture qui déboîte, une moto qui ne fait pas attention, ou plutôt une voiture qui ne fait pas attention à la moto. C'est extrêmement important.
Mais tous les départements ne vont pas réagir de la même manière.
Tous les départements ne vont pas réagir de la même manière. Il y a les départements qui d'ores et déjà ont dit « nous, on reste à 80 km/h ». Et puis il y a ceux qui disent « Eureka !» Et ce sont ceux qui ont bataillé déjà, qui avaient envie de faire une pétition à l'Assemblée nationale, qui ont dit « mais non, on va revenir aux 90 km/h, c'est un droit acquis, vous vous rendez compte, on va rester derrière les camions ». Ça aussi, c'était un argument.
Je me souviens de cet argument.
Ils disaient « 80, du coup, ça veut dire qu'on reste derrière le camion, on n'a pas les 10 km/h de delta pour doubler le camion ».
Et après, on se le paye pendant les virages. Est-ce que ça va changer quelque chose, Pierre, pour les constructeurs automobiles?
Alors ça va, rétablir les choses, puisque les voitures sont réglées d'une certaine manière. Il y a les voitures à boîte automatique, il y en a de plus en plus, on le constate, ça change pas. Mais beaucoup de conducteurs ont dit que au passage à 80, ils étaient entre deux vitesses. Ils étaient entre la quatrième et la cinquième. Ils étaient en sur-régime en quatrième et ils étaient en sous-régime en cinquième. Donc finalement, revenir à 90 km/h, on va pouvoir passer notre bonne vieille cinquième vitesse, même sixième pour certains qui ont ça sur leur voiture, et rester un peu tranquille.
Merci beaucoup, Pierre de Villeneuve. À fond la caisse. À la semaine prochaine.
Europe 1.
Dans un instant, le journal de 19h de Sophie Dussault. À tout de suite sur Europe 1.
18h-20h. Votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
18h-20h.
Philippe Vandel sur Europe 1.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour de l'info et des infos. C'est une petite phrase qui a créé un vent de panique à l'archevêché de Paris à propos de la reconstruction de Notre-Dame ravagée par l'incendie. Le président de la Fondation du patrimoine a laissé entendre à propos du financement qu'il y avait trop d'argent. Je cite « Nous avons pris, dit-il, la décision d'arrêter cette collecte la semaine prochaine parce que nous pensons que nous avons fait le plein ».
Christophe Rousselot, le délégué général de la Fondation Notre-Dame, qui dépend du diocèse de Paris, conteste formellement ces affirmations. Rien n'est réglé à tous les sens du terme, selon lui. Il sera avec nous à 19h15. Et puis, dans la dernière demi-heure, un débat sur les européennes entre réalité et fantasme. L'extrême droite numéro 1 au Parlement européen, est-ce possible? Et puis la campagne La République En Marche qui patine encore et toujours. Le président Macron a-t-il eu raison de s'engager dans l'arène? Moi ou le chaos, n'est-ce pas un peu le monde d'avant? Et les déclarations du président, j'ai sauté une ligne, ne vont-elles pas mobiliser au contraire le camp adverse? Nous sommes en direct, vous l'entendez, réponse à suivre.
Et continuez à nous faire part de vos commentaires, réagissez à ce grand journal du soir sur europe1.fr ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. 19h, bonne fin de week-end à tous. Le journal Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Les parents de Vincent Lambert, mobilisés à la veille de l'arrêt annoncé des traitements qui maintiennent leur fils en vie, ils multiplient les actions pour le sauver. Premier mea culpa de Boeing, après les crashs de la Lion Air et Ethiopian Airlines, l'avionneur reconnaît des défauts dans les simulateurs de vol du 737 MAX. Le dispositif médical a présenté ses innovations cette semaine et parmi elles, le pansement intelligent à découvrir dans ce journal. Et puis moment intime et immortalisé, celui de la première rencontre entre Grace Kelly et le prince Rainier de Monaco. Les photos sont exposées pour quelques mois dans la principauté.
Europe 1.
À 24 heures d'une douloureuse échéance pour eux, les parents de Vincent Lambert continuent de se battre.
Ils déposeront un nouveau recours juridique demain pour empêcher l'arrêt des traitements qui maintiennent leur fils en vie. Et aujourd'hui, ils étaient mobilisés devant le CHU de Reims, où Vincent Lambert est hospitalisé. Un rassemblement d'environ 150 personnes pour supplier les médecins de revenir sur leur décision. Écoutez David Philippon, le demi-frère de Vincent Lambert.
Vincent n'est pas en fin de vie. On veut le mettre en fin de vie. Et aujourd'hui, c'est notre cri de désespoir. Il n'y a que M. Macron maintenant qui pourrait faire quelque chose, qui pourrait respecter ses engagements internationaux. Il ne le fait pas. Il s'assoit dessus. Et dans quelques semaines, il me semble, très prochainement, la France va être à la présidence de l'Union européenne. Quel message il lance? On s'assoit sur tous les accords internationaux? C'est inadmissible. Notre préoccupation à l'heure actuelle, c'est d'entourer Vincent, d'arriver à le faire transférer. Et on fait confiance à la formidable équipe d'avocats qui est derrière nous depuis tant d'années, qui vraiment font un travail formidable. L'équipe de médecins, on ne désespère pas. On se bat jusqu'au bout.
David Philippon, le demi-frère de Vincent Lambert, au micro européen de Jeanne Bergaoui. Alors vous venez de l'entendre, sa famille demande à Emmanuel Macron d'intervenir. Elle lui a d'ailleurs adressé une lettre en ce sens. Et si François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux Européennes, estime que le chef de l'État devrait donner son sentiment sur la question, Jean Leonetti, le père de la loi de 2016 sur la fin de vie, estime à l'inverse qu'Emmanuel Macron ne peut pas se substituer au pouvoir des tribunaux. Il l'a déclaré ce matin sur Europe 1. C'est une première. Boeing reconnaît des défauts liés aux 737 MAX. Ces avions impliqués dans deux catastrophes aériennes ayant fait près de 350 morts en octobre et mars dernier. L'avionneur américain reconnaît une défaillance du logiciel qui servait à former les pilotes sur ces appareils. Sonia Dridi, c'est l'heure du mea culpa.
Oui, après des excuses tardives et plusieurs messages confus, Boeing admet pour la première fois un défaut sur le logiciel de simulateur de vol qui permet de former les pilotes. D'après la compagnie aérienne, ils ne pourraient pas être dans toutes les conditions de vol comme celles qui ont conduit au crash d'Ethiopian Airlines. Boeing a annoncé avoir fait des corrections sur le logiciel et avoir fourni des informations supplémentaires aux exploitants du système. Le constructeur assure que ces changements vont améliorer la formation des pilotes. Jusqu'à présent, les compagnies aériennes forment les pilotes volant sur le MAX sur un simulateur conçu pour le 737NG, l'ancienne version du 737 MAX. On ne sait pas quand l'avionneur s'est aperçu des défauts. En tout cas, cet aveu n'améliore pas l'image de Boeing qui avait tenté de se dédouaner et avait même évoqué de possibles erreurs des pilotes. Boeing espère maintenant obtenir le feu vert des autorités de régulation mondiale pour faire redécoller ses avions. C'est capital pour la compagnie. Un vol de certification qualification aura lieu dans quelques jours.
Sonia Dridi à Washington pour Europe 1. À un peu plus d'un mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, un quart de touristes a été pris pour cible au Caire. Un engin a explosé au passage du très célèbre site des pyramides de Gizeh. Au moins 17 personnes ont été blessées, notamment des Sud-Africains et des Égyptiens.
En Autriche, la date est prise.
Les élections législatives anticipées se tiendront en septembre prochain. Une décision du président après que la coalition au pouvoir a éclaté hier. Le vice-chancelier d'extrême droite a démissionné après qu'il a été mis en cause dans une vidéo dans laquelle il tente de compromettre la nièce d'un oligarque russe en échange d'un soutien politique lors des dernières législatives.
Europe 1.
Des pansements intelligents et sans aucun rapport, des photos intimes de la première rencontre de Grace Kelly et du prince Rainier. On vous dévoile tout après une courte pause.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 19h06, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Le dispositif médical présentait cette semaine ses innovations à Paris.
À l'occasion de la 5e édition de la journée des start-up innovantes du secteur, alors certaines pourraient bien bouleverser dans les prochaines années la santé et le quotidien des patients, comme le pansement intelligent qui pourrait devenir un atout majeur sur certains traitements. Les explications de Mélanie Gomez.
Ce pansement intelligent, pour le moment, il ne sera pas destiné à soigner les petits bobos du quotidien. En fait, il a été conçu pour venir en aide aux personnes qui souffrent de ce qu'on appelle les plaies chroniques, c'est-à-dire des blessures qui peuvent mettre des mois ou des années à guérir. Ça concerne environ 100 000 personnes, des diabétiques surtout, pour qui l'arrivée de ce produit pourrait tout changer. Un pansement qui, vu de l'extérieur, ressemble à un pansement classique, mais qui contient beaucoup de technologies, précise Vincent Bouchia, président de la société Graphil.
Nous, on a mis au point en fait un matériau qui est au contact même du lit de la plaie. Ce matériau, en fait, il est issu des technologies de la microélectronique. C'est une couche de carbone ultra fine qui est tenue face arrière sur un polymère. Et cette couche de carbone, au contact même de la plaie, va avoir des actions directes sur la cicatrisation et sur la mesure de la manière dont se fait cette cicatrisation.
Donc ce pansement, il a une double fonction. À la fois, il accélère la cicatrisation et en même temps, il est capable d'alerter les soignants quasi en temps réel dès que ça s'infecte, par exemple. Pour le moment, il a été testé avec succès chez la souris. Ses chercheurs passent au test chez l'homme dans quelques mois. Il pourrait être sur le marché d'ici 3 ans.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Gros événement ce soir à Cannes. Alain Delon s'apprête à recevoir son premier prix au festival. Une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Une cérémonie malgré les protestations d'associations féministes.
Et justement, en marge du Festival de Cannes, une exposition de photos intimes sur le rocher.
Celle de la première rencontre entre le prince Rainier de Monaco et l'actrice américaine Grace Kelly. C'était il y a 64 ans, en marge des projections qui se déroulaient sur la croisette. Le moment a été immortalisé par 2 photographes, mais la plupart des photos étaient tombées dans l'oubli. Jacques Terrance a pu les découvrir aux côtés du prince Albert pour Europe 1.
Ce sont 70 photos inédites en noir et blanc. Certaines sont ratées ou un peu floues, mais justement, c'est tout l'intérêt de cette expo installée à l'intérieur du palais, dans les appartements du prince, exactement là où a eu lieu la première rencontre le 6 mai 55 et la première poignée de main entre le prince Rainier et Grace Kelly. Émouvant forcément pour leur fils, le prince Albert II.
Vous savez, quand on touche quelque chose d'aussi personnel, c'est forcément très très émouvant. Il y a des clichés que je ne connaissais pas. Il y a des photos très belles de ma mère seule, mais je crois que leurs conversations dans le jardin, c'est celles qui sont les plus... C'est des instants un peu d'intimité volée, c'est même presque dommage qu'on soit les témoins de cela. Parce que c'était un moment pour eux.
Un moment que Vincent Vatrican, l'un des 2 commissaires de l'exposition, a décortiqué minute par minute à l'aide de témoignages et d'archives photos, et notamment l'incroyable histoire de la robe de Grace Kelly, qui n'était pas celle prévue au départ.
Cette robe ne pourra pas être repassée puisqu'il y a une grève des électriciens à Cannes ce jour-là, donc impossible de mettre cette robe. Donc Grace Kelly a l'idée de prendre cette robe en taffetas noir avec des imprimés colorés. C'est la robe qui rentre dans l'histoire.
Comme le retard du prince Rainier, Grace Kelly a dû l'attendre 1 heure pour 30 minutes d'entrevue. Elle ne lui en a finalement pas tenu rigueur. Monaco, Jacques Terrance, Europe 1.
Et cette exposition se tient au palais princier à Monaco jusqu'au 15 octobre.
Et c'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup Sophie.
Europe 1, 19h10.
La météo, c'est maintenant avec vous Valérie Darmon. Demain, les températures reviennent enfin dans les normales de saison.
Et oui, enfin, le matin entre 7 et 13 degrés du nord au sud. L'après-midi, les maximales qui seront en légère hausse, comprises entre 18 et 21, avec des pointes à 23 près de la Méditerranée. On retrouvera donc des niveaux de saison. Il fera également 19 à Paris, 20 degrés à Nantes et Angers, 21 à Charleville et Marseille, et donc 23 à Nîmes. Côté ciel, dans le nord-ouest, alternance de cumulus et d'éclaircies avec quelques ondées si vous habitez entre la Normandie et la Sologne. Dans le sud-ouest, retour d'un temps sec près du littoral aquitain, mais un risque d'averse l'après-midi du Béarn au Périgord jusqu'en Limousin, ainsi que sur les Pyrénées. Bourgogne, Jura, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence, Côte d'Azur et Corse, vous passez la journée sous la menace d'averses qui peuvent prendre un caractère orageux.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec vous Jean-François Pérez. Rebonsoir.
Bonsoir Philippe.
Le foot français réuni ce soir à Paris.
Oui, ça se passe dans un établissement cossu du Bois de Boulogne. Soirée des trophées UNFP, l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels. Ce sont eux qui votent. Les 5 joueurs en lice pour le trophée de meilleur joueur de la saison. Kylian Mbappé, Neymar, André Di Maria les Parisiens, Nicolas Pépé le Lillois et Atem Ben Arfa le Rennais. On y sera ce soir sur Europe 1 avec Julien Froment. Le grandissime favori, c'est
Kylian Mbappé.
Voilà. Et contrairement à ce qu'il disait il y a une heure sur notre antenne, Christophe Galtier serait dans les petits papiers pour le trophée de meilleur entraîneur à suivre ce soir.
Mais oui, il ne veut pas se porter l'œil, évidemment. Et pendant ce temps, on pense déjà à la saison prochaine et notamment à Lyon.
Oui, Jean-Michel Aulas a officialisé hier soir les arrivées de l'ancienne star du club, Juninho, comme directeur sportif et de Silvinho, un autre Brésilien comme entraîneur qui a notamment joué à Barcelone, Arsenal, il était arrière latéral, était jusqu'à présent l'adjoint du sélectionneur brésilien. La succession de Bruno Genesio est donc assurée. Et celui qui se retirera la semaine prochaine le fera avec le sentiment du devoir accompli.
J'ai vécu ici des grands moments que je n'oublierai jamais dans ma jeune carrière, puisque j'ai eu la chance de débuter ma carrière en Ligue 1 à Lyon, dans un des plus grands clubs européens. Donc je vais avoir plein de très très bons souvenirs qui vont rester. Je suis fier d'avoir rempli les objectifs, d'avoir amené pour la troisième fois en 3 ans et demi... l'équipe sur le podium. On peut être fier du travail qu'on a fait.
Voilà, Bruno Genesio avec Pascal Auclair, jubilé évidemment à Lyon, hein, Philippe, pour Bruno Genesio qui continuera à travailler soit à Lyon, soit dans un autre club. Son dernier match avec l'Olympique Lyonnais, ce sera à Nîmes vendredi prochain pour la dernière journée de Liga.
Oui, parce que la dernière journée, ce sera le vendredi. Du rugby, Jean-François, avec la suite de la 25e journée du top 14.
Oui, Toulouse qui vient de s'imposer sur le terrain de Bordeaux-Bègles, 43 à 36. C'est la fin du rêve de phase finale pour les Girondins. Montpellier maintient le suspense après sa victoire sur le Stade français, 42 à 25 ce soir, 21h, Toulon, Clermont. Un petit mot de MotoGP, c'était le Grand Prix de France cet après-midi au Mans et l'inévitable Marc Marquez, champion du monde en titre, s'est imposé devant plus de 100 000 spectateurs. 8e place pour le jeune français Fabio Quartararo, l'autre français Johan Zarco est 13e.
Enfin, tennis, Nelson Monfort nous avait dit qu'il ne fallait pas l'enterrer. Triomphe romain pour Rafael Nadal à une semaine de Roland-Garros.
Je ne savais pas que Nelson Monfort avait dit ça.
Il nous a dit, vous allez voir, il va revenir et il va gagner.
Bah bim, voilà, il a eu gagné. Raison. L'Espagnol a joué une partition remarquable face à Novak Djokovic, score final 6-0, 4-6, 6-1 en 2h25 de jeu. C'est la 9e victoire pour Nadal à Rome. Alors certes, le Serbe était épuisé après une semaine très chargée. Il y a eu beaucoup d'interruptions de jeu à cause de la pluie cette semaine sur la capitale italienne. Mais voilà Nadal, enfin vainqueur cette année. C'est son premier tournoi gagné en 2019. Et au meilleur moment, il va arriver à Roland-Garros en pleine confiance. Mais attention, le rendez-vous à ne pas manquer ce soir, c'est Guy Forget face aux auditeurs d'Europe 1 à partir de 20h. Le directeur de Roland-Garros va s'exprimer longuement à la veille du début des qualifications. On va parler tennis, bien sûr, Nadal, donc Djokovic, Federer, les Français. On va parler aussi de l'avenir de Roland-Garros avec un nouveau central qui sera bientôt doté d'un toit. Et puis des anecdotes savoureuses, dont ce match de Coupe Davis à Clermont-Ferrand, 1988, sur les terres de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Écoutez bien.
Valéry Giscard d'Estaing, qui était très entouré, d'un coup nous voit avec Yannick Noah et vient vers nous en nous félicitant sur notre performance et nous dit « mais on sent cette complicité entre vous, c'est formidable !»
Très bonne imitation.
Et puis, mais de manière très sympa, il n'y avait pas de caméra, donc c'était spontané. Et Yannick, là, dit à Valéry Giscard d'Estaing, « mais vous savez, monsieur le Président, c'est que Guy Forget a un talent incroyable, c'est qu'il vous imite à la perfection. » Et là, moi, j'étais tout jeune joueur, je deviens rouge comme une tomate, et je dis « non, mais il plaisante. » Et lui, il me dit « monsieur, allez-y, je vous en prie, montrez-moi. » Et, les deux ont insisté pendant 30 secondes et j'ai envie de disparaître.
Voilà, Guy Forget avec Lionel Rousseau et toute son équipe face aux auditeurs d'Europe 1 à partir de 20h sur Europe 1.
C'était le journal des sports de Jean-François Pérès. Merci beaucoup Jean-François.
Merci, bonsoir.
Europe 1.
À suivre, Stop ou encore, plus d'un mois après l'incendie de Notre-Dame et les millions versés par de grandes fortunes françaises, et pas seulement, faut-il encore donner pour restaurer la cathédrale? Deux institutions se sont affrontées cette semaine. Christophe Rousselot est notre invité dans un instant. On demandera au délégué général de la Fondation Notre-Dame quelle est la réalité derrière ce chiffre d'1 milliard d'euros récolté.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. Philippe Vandel, il est assez rare que les institutions disent avoir trop d'argent.
C'est une petite phrase qui a créé un vent de panique vendredi dernier à l'archevêché de Paris à propos de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie, faut-il le rappeler. Le président de la Fondation du patrimoine, Guillaume Poitrinal, a répondu à propos du financement des travaux. On l'interrogeait, on lui demandait s'il pensait qu'il y avait trop d'argent. Voici sa réponse. Nous avons pris la décision d'arrêter cette collecte la semaine prochaine, donc maintenant, parce que nous pensons que nous avons fait le plein. Bonsoir Christophe Rousselot.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général de la Fondation Notre-Dame, c'est un autre organisme qui dépend, votre fondation, du diocèse de Paris. Et chose assez rare pour être signalée, l'archevêque de Paris en personne, Monseigneur Aupetit, a publié un tweet que je vais vous lire. « La Fondation Notre-Dame et le diocèse de Paris continuent de recevoir vos dons, quel qu'en soit le montant, avec ma gratitude. Pourquoi ce message Twitter ?»
C'est vrai que l'archevêque ne tweete pas très souvent. Oui. Il fallait envoyer un message très vite compte tenu de la décision de la Fondation du patrimoine, qui n'appartient qu'à elle, hein, que je n'ai pas à commenter. Chacun a une stratégie et la Fondation du patrimoine agit au plan national. Donc on peut parfaitement comprendre qu'elle pense à tous les autres chantiers et les besoins en province. Mais ce qui était important de rappeler, c'est que la collecte continue pour deux raisons simples. La première, c'est que personne ici-bas ne connaît le montant total nécessaire pour que ce chantier puisse être achevé. Et deuxièmement, la collecte, elle est loin d'être terminée.
À combien se montent les promesses, si vous avez les chiffres en tête, et à combien se montent les dons?
Alors, en ce qui concerne la Fondation Notre-Dame, à ce jour, nous avons encaissé presque 15 millions d'euros. Hein. Les chiffres bougent tous les jours,
bien sûr,
parce que nous recevons des dons tous les jours, petits, moyens et grands.
Mais à rapporter à la somme des promesses, qui est encore plus considérable, évidemment.
Voilà. Et nous attendons un peu plus de 350 millions de promesses à ce jour.
Donc c'est un rapport de 1 à 20.
Exactement.
J'ai lu pour la reconstruction plusieurs chiffres. En gros, certains sont à 700 millions, d'autres 800 millions, d'autres 1 milliard. Ces chiffres sont-ils crédibles? Est-ce que c'est également la fourchette que vous avez ou il est trop tôt pour donner des chiffres?
À ma connaissance, ceux qui ont avancé ces chiffres sont des gens qui sont des professionnels, mais qui ne sont pas dans le chantier. Et donc, il y a quelque chose de très simple à comprendre, c'est qu'il faut que ceux qui travaillent sur le chantier, les experts dont c'est le métier, puissent attendre les enregistrements des capteurs qui ont été posés pour déterminer la fiabilité des pierres. Tout le monde a en tête au moins les piliers. Tout le monde est rentré dans une église, dans une cathédrale. Et on comprend parfaitement, sans être architecte, que c'est les piliers qui tiennent tout.
Il faut expliquer que les capteurs mesurent le déplacement des piliers. Et c'est évidemment infinitésimal. Mais pour en avoir conscience exactement, il faut attendre le résultat de ces expertises techniques.
C'est ça. Il y a un enregistrement. Il faut attendre quelques semaines pour qu'on puisse déterminer déjà la solidité de l'édifice. Entre une cathédrale qu'on voit debout, grâce aux étais qui ont été posés, sur les pignons nord notamment, sur les travées des ogives, tout ça montre une cathédrale debout, et c'est plutôt réjouissant, on se dit elle est sauvée. Mais entre ce qu'on voit et la réalité, il y a un écart très fort, et c'est cet écart-là qu'il va falloir mesurer pour dire combien ça coûte de refaire tout ça.
Attendez, vous nous faites peur, vous dire qu'elle n'est pas sauvée? Moi je me souviens du ministre de la Culture qui a dit la cathédrale est sauvée.
Elle est sauvée, mais elle doit être consolidée.
Une certaine partie de l'argent a déjà été utilisé. À quoi a-t-il été déjà utilisé?
Eh bien, c'est la sécurisation du chantier qui correspond au premier appel de fonds que nous avons reçu il y a peu de jours du ministère de la Culture. Ça représente 20 millions d'euros, ce qui est beaucoup, mais c'est un chantier considérable, tout le monde l'a bien compris. C'est les palissades qui vont permettre aux gens de s'approcher davantage de la cathédrale, alors que pour le moment, ils sont contenus à distance de l'autre côté de la Seine ou derrière des barrières de sécurité. Et donc, ce sont les palissades, d'abord, qui permettent aux ouvriers de travailler dans de bonnes conditions de sécurité. Il faut bien réaliser que, autant les pierres qui sont tombées ont été soigneusement rangées, toutes numérotées, sous des tentes qui se trouvent sur le parvis, mais il y a encore des choses qui peuvent se passer. Donc, cette sécurisation est indispensable. La Fondation Notre-Dame a reçu un appel de fonds de 3,8 millions. Ces 3,8 millions, eh bien, nous allons pouvoir les verser à l'État grâce aux dons que nous avons déjà collectés.
Je précise que la Fondation Notre-Dame, dont vous êtes le délégué général, est l'une des quatre institutions qui collectent des dons pour la reconstruction de Notre-Dame avec la Fondation de France, la Fondation du patrimoine dont nous parlions, qui disait qu'ils avaient assez d'argent, eux, et le Centre des monuments nationaux. En même temps, vous reconnaissez que les chiffres qui ont été annoncés donnent le tournis. 200 millions par Bernard Arnault, 100 millions de François Pinault, autant de la famille Bettencourt. Le Centre des monuments nationaux a récolté près de 4 millions d'euros, 1 million de promesses de dons, 31 millions sont déjà arrivés de l'étranger. Il est légitime que des gens se disent « c'est terminé, c'est bon, c'est clos ».
Oui, bien sûr, c'est énormément d'argent et tout ça en addition. Je crois que le ministère a donné un chiffre, 850 ou 880 millions, mais ce sont des chiffres en pointillés. Encore une fois, tout cet argent n'est sur la table de personne. Je ne doute pas une seconde que ces montants importants annoncés par les familles, par des marques connues, des entreprises fameuses au plan mondial vont honorer leur engagement. Ce que je puis dire, en tout cas, pour en avoir suffisamment discuté avec elles, c'est qu'elles opéreront leur versement par tranche. C'est-à-dire qu'elles attendront des descriptifs comme nous-mêmes, des tranches de chantier. Tout le monde comprend ça. Quand on construit une maison ou quand on la restaure, on ne fait pas tout d'un coup. Et il y a des appels de fonds successifs qui sont versés, auxquels on répond au fur et à mesure du descriptif des tranches. Ça va être la même chose.
Que faire, selon vous, en cas d'excédent ? Est-ce qu'il faut affecter tout l'argent à Notre-Dame ou bien répartir la somme auprès des 2300 églises, si le chiffre est exact, qui ont besoin d'argent dans toute la France pour être rénovées ?
Eh bien, je crois qu'il y a un point qui s'impose, indépendamment du sujet de la cathédrale un instant, si on réfléchit à cette question, c'est l'intention du donateur. C'est facile à comprendre. Vous faites un don, eh bien, vous dites que ce don va servir pour un sujet. Le sujet, il est la cathédrale. Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre d'interpréter, quelle que soit la justesse des autres besoins, et dire que eh bien, le surplus éventuel, très hypothétique, eh bien, nous ne pouvons pas prendre sur nous-mêmes que de dire qu'une partie de cet argent irait à d'autres besoins.
Alors, il y a aussi le problème de la loi d'exception. Le président Macron a annoncé sa volonté de reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Et pour ce faire, une loi qui est en discussion actuellement prévoit la possibilité de déroger à certaines règles d'urbanisme, de protection de l'environnement, de commande publique ou de préservation du patrimoine. Qu'en pensez-vous ?
Tout le monde est pressé qu'on puisse, et le clergé dont c'est la mission en tant qu'affectataire est pressé d'accueillir à nouveau les fidèles.
Ah, parce et que donc, ça aussi c'est une polémique. Tout le monde est pressé, vous êtes pressé, mais il y a beaucoup de scientifiques qui disent 5 ans c'est totalement irréaliste, nous allons trop vite et cette décision n'est pas une décision qui a à voir avec les monuments historiques, mais c'est une décision politique pour que la cathédrale soit reconstruite au moment des Jeux Olympiques de 2024. Qu'en pensez-vous ?
Ce bâtiment appartient à l'État. L'État est le propriétaire et l'État, à travers son président de la République, a fixé une durée. Il ne nous appartient pas en tant que Fondation Notre-Dame de décider si cette durée est réaliste ou non. Je pense que c'est important et intéressant. Et le comité scientifique qui est prévu par le projet de texte de loi prévoit que justement l'ensemble des personnes compétentes va pouvoir donner son avis sur beaucoup de choses, et notamment la question de la charpente, par exemple, en béton, si c'est invisible, comme à Nantes, par exemple, ou est-ce qu'il faut refaire en bois ? Vous voyez, tout ce genre de questions qui appartient au propriétaire.
Et la flèche, vous en pensez quoi vous-même ? Est-ce qu'il faut la reconstruire ? Ou alors, comme elle n'est pas d'origine, elle avait été rajoutée par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, ne pas la reconstruire ? Par exemple, Jacques Attali penche pour cette option.
Alors, en tant que fondation, je n'ai pas d'avis, mais vous voyez, on est en train de lire attentivement tous les courriers des donateurs que nous avons reçus. Et je me suis engagé à ce que, vers la mi-juin, j'espère tenir cette promesse, on puisse dire d'une façon un peu précise tout ce que les gens nous ont dit. Eh bien, sur une partie déjà du dépouillement, je peux vous indiquer de 1300 courriers, on n'a pas encore tout dépouillé, la question de la flèche revient pour un peu moins de 8%. Je ne suis pas en train de vous dire il faut reconstruire la flèche ou non, il ne faut pas la reconstruire parce qu'il n'y a que 8% des gens qui nous en ont parlé.
C'est dommage, c'était ma question.
Autant de personnes, autant d'avis, évidemment.
Et vous-même.
Et encore une fois, il appartiendra. Bah, écoutez, j'ai mon bureau en face de la cathédrale, on a la chance d'être juste à côté. Si vous me poussez vraiment, je dirais, je la trouvais un tout petit peu incongrue autour de ces apôtres, il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais ça n'est qu'un avis très personnel.
Autre polémique, on est en France, il y a toujours des polémiques. Le président de la République a chargé le général Georges Lain, un ancien militaire, de piloter les travaux. Et mercredi, le général a autorisé les équipes de télévision de la chaîne américaine ABC de filmer dans la cathédrale. Seulement un mois après le drame, ces images ont fait le tour du monde et ont provoqué également la colère du ministre de la Culture, Franck Riester. Et la vôtre aussi ?
C'est au propriétaire de décider un certain nombre de choses touchant à ce type d'opération de communication, je n'ai pas à en juger. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que dès que l'Église catholique de Paris célébrera une messe, c'est-à-dire dès que possible, eh bien, la chaîne de télévision KTO, c'est une chaîne de télévision catholique que tout le monde peut regarder d'ailleurs,
française.
Eh bien, c'est KTO qui retransmettra cette messe pour que le plus grand nombre puisse en profiter, parce que ce sera forcément un très petit effectif qui sera présent.
Alors, j'ai compris que vous étiez pressé, puisque l'archevêque de Paris, Mgr Opoty, annonce une première messe dans la cathédrale, il le voudrait, le 16 juin, dans moins d'un mois. Est-ce que c'est réaliste ou, si j'ose dire, c'est un vœu pieux ?
Je crois savoir que les pouvoirs publics font tout pour que ça puisse se passer. Maintenant, la date, personne ne la connaît vraiment encore.
Ça, c'est une information que vous me donnez. Les pouvoirs publics font tout pour qu'il y ait une messe le 16 juin.
Pas le 16 juin, mais font tout pour qu'une messe soit célébrée le plus rapidement possible, parce que même si la cathédrale est en travaux pour de longues années, évidemment que ce bâtiment a un sens spirituel et qu'il faut l'honorer. Il y a un projet, je peux vous le dire aussi, du recteur qui me semble tout à fait intéressant, c'est-à-dire que les vêpres soient chantées sur le parvis. On n'est pas obligé d'être dans la cathédrale, in situ, pour chanter le Seigneur. On peut se trouver juste devant.
Merci beaucoup Christophe Rousselot. Je rappelle que vous êtes délégué général de la Fondation Notre-Dame. Merci d'être venu jusqu'ici sur Europe 1.
Merci.
Europe 1.
À suivre notre débat du dimanche soir, une vraie force d'extrême droite au Parlement européen dans une semaine. Est-ce que c'est de la politique fiction ou une future réalité ? Et puis question, pourquoi Emmanuel Macron doit-il montrer sa tête ou pas dans la campagne ? On en parle dans un instant avec nos invités qui sont déjà là. À tout de suite.
Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Place maintenant à notre grand débat d'actu, Philippe Vandel.
Avec Émilie Raffoul, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Vous êtes journaliste et productrice télé à 5 bis Productions. Avec Alex Taylor, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes auteur de livres. Dernier ouvrage paru, il s'appelle Brexit, l'autopsie d'une illusion. Et l'éditeur, c'est Jean-Claude Lattès. Avec Alexandre Kouchner également avec nous. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Vous êtes co-rédacteur en chef de la revue Européen, dont le deuxième numéro vient de sortir. Avec des jeunes personnes qui dansent les bras en l'air avec un drapeau de l'Europe en guise de t-shirt. Et on sent que c'est joyeux pour vous l'Europe. Hier, Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur italien, a réuni à Milan Marine Le Pen et une dizaine de leaders d'extrême droite. Selon les sondages, il est possible qu'un groupe d'extrême droite soit en troisième position derrière la droite traditionnelle, le Parti populaire européen et les démocrates sociaux, enfin l'espèce de centre-gauche européen. Qu'est-ce que cela vous inspire, Alexandre Kouchner ?
Écoutez, ça m'inspire d'abord un peu de crainte, un peu de tristesse également, mais c'est la réalité des sondages. Si l'on regarde vaguement les pays d'Europe dans lesquels les forces d'extrême droite vont faire un très très bon score, il y a l'Angleterre, il y a les Pays-Bas, l'Italie, la Hongrie, la Belgique, où apparemment ces forces-là vont arriver en tête, en France, en Pologne, en Suède, au Danemark, peut-être en Autriche. Bref, il y a une vraie... mouvement ascendant pour tous ces partis politiques-là. Mais la vraie question, c'est pas est-ce qu'ils vont réussir à gagner, c'est est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre.
Entre eux.
Entre eux, parce que hier, ils étaient 11. Ils nous ont tous fait un couplet d'Europe des Nations où à chaque fois, ils étaient d'accord sur tout, mais ils sont en réalité d'accord sur rien. Sur leur rapport avec la Russie, ils sont pas d'accord. Sur leur rapport avec la Chine, ils sont pas d'accord. Ils sont même pas d'accord sur l'Europe. Il y a des partis qui veulent en partir, d'autres qui veulent y rester. En tout cas, la réalité de leur politique commune s'avère à peu près aussi compliqué que la réalité de la politique européenne.
Pour vous donner raison, par exemple, sur l'économie, les populistes du Nord sont favorables à l'austérité. Austérité combattue par les populistes du Sud.
Absolument.
On
ne
sait pas comment ils vont s'accorder. Vous regardiez Alex Taylor tout à l'heure en disant les Anglais. Juste une question. Les Anglais, il y a le Brexit, ils vont quitter l'Europe, mais ils vont quand même voter.
Ah, c'est pas sûr pour le moment. Hein.
Ah. Qu'est-ce qui n'est pas sûr ? Parce qu'avec vous, rien n'est jamais sûr.
Qu'ils quittent l'Europe. Hein. Ça fait trois ans qu'ils essaient, tant bien que mal, de quitter l'Europe. Ils sont toujours là. La preuve, c'est qu'ils vont voter aux élections européennes.
Alors, qui ont-ils présenté au Royaume-Uni ? Des petits leaders, des semi-leaders, des troisièmes couteaux ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce que c'est un sujet d'importance là-bas ?
Ah oui, c'est un sujet d'importance. Qu'est-ce qui se présente ? Ben, il n'y a qu'un seul parti qui risque de faire un malheur, c'est le parti du Brexit de Nigel Farage. Sinon, les autres partis ne font même pas de manifeste. Les conservateurs sont donnés quatrième position. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils racontent aux électeurs ? On essaie depuis trois ans vaguement de sortir de l'Europe, mais on n'y arrive pas. Voter pour nous parce que c'est votre chance de sortir de l'Europe. Mais moi, je vais vous emboucher un coin si je
Allez-y.
Peux. Parce que vous savez,
on
moi, je me définis comme un journaliste européen, plus pro-européen que moi. Ouais. Ce sera difficile. Ça fait 35 ans que je fais des émissions de télé et de radio sur l'Europe. Moi, j'accueille, je suis désolé, je vais vous choquer, j'accueille avec enthousiasme l'arrivée de ce qu'on appelle les populistes, parce que déjà leur donner un seul nom me paraît erroné, parce que comme vous avez dit, Alexandre Kouchner, ils sont pas d'accord entre eux. Donc dire les populistes, il y a des partis qui sont qui ont quelques idées en commun, qui vont essayer de former un groupe, mais déjà comme vous avez dit, ils ont du mal, parce que par exemple les Hongrois veulent pas se mettre avec le Rassemblement National en France.
C'est pour une raison technique, c'est que Viktor Orban est premier ministre au pouvoir, il veut pas s'associer à des groupes qui ne sont pas au pouvoir. Mais c'est pas idéologique. Mais je peux vous trouver des désaccords idéologiques. Il y en a plein.
C'est ce que je dis. Voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, ça fait 35 ans que j'essaie de faire des émissions sur l'Europe et on me dit, à longueur de temps, l'Europe n'intéresse personne. Y compris il y a 25 ans que j'ai passé au Parlement européen à faire des émissions, on me disait la même chose. L'Europe n'intéresse personne. Là, au moins, il y a ces courants de pensée en Europe. Et je pense que l'arrivée de ce qu'on appelle les populistes, moi je les appelle les nativistes, parce qu'il y a toujours une idée d'identité nationale qui l'emporte sur le reste chez eux, si on peut dégager quelques tendances, va au moins, enfin, motiver les autres en face de se réunir et d'avoir un discours tout simplement différent de celui qui dit bah, l'Europe c'est un truc, c'est pas génial, mais il faut quand même essayer de le faire. Je vous donne comme juste un exemple. J'étais il y a un mois à Londres. Je n'ai jamais vu dans aucune ville européenne, pourtant j'en ai parcouru des masses, autant de gens, 1 million de personnes dans la rue brandir fièrement des drapeaux européens, surtout des jeunes. Je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Pourquoi ? Parce que le Brexit est passé par là. Parce que le Brexit, c'est le populisme, si on veut bien, à l'état brut. C'est l'effet concret du Brexit. Donc tout d'un coup, les gens se rendent compte que c'est pas top de quitter l'Union européenne. Les gens sont venus dans la rue comme ils n'ont jamais manifesté. Vous savez, en Grande-Bretagne, ils n'ont jamais été particulièrement enthousiastes sur l'Europe. Et là, ils étaient là.
J'espère qu'en Europe, ils fabriquent des horloges pour Alex Taylor qui fait des monologues, mais c'était absolument passionnant. Et pour vous donner raison, Alex, le premier sujet de débat aujourd'hui, c'est justement l'Europe. Émilie Raffoul.
Voilà. Bon, et donc Alex Taylor l'a dit, c'est le national qui l'emporte, puisqu'on reste sur ces populismes de droite. Et c'est vrai que le national qui l'emporte, ça veut dire c'est l'émiettement et c'est repli sur soi-même et souveraineté. Et le voisin devient l'ennemi. Donc je pense qu'on s'attend, on se prépare à des choses assez cocasses et intéressantes si jamais il l'emportait. Première chose. Deuxième chose.
On l'a dit, Émilie, d'un mot, ils vont pas l'emporter. Ils vont être troisième. Ils vont faire un grand score. Enfin, ils vont pas l'emporter.
Oui, mais je veux dire, ils ne vont pas faire une force compacte, massive, qui pourrait peser de manière compacte. Je voulais quand même dire quelque chose, et je voudrais revenir plus tard là-dessus, sur, effectivement, les gens ne savent pas ce que c'est que l'Europe, parce que c'est très virtuel, opaque, c'est difficile à incarner, on ne sait pas sur quoi ça travaille, mais moi j'ai fait la liste de tout ce que l'Europe nous avait apporté.
Et c'est énorme.
Mais je le dirai peut-être tout à l'heure, parce que je pense que ces populismes de droite, en revanche, peut-être que c'est l'un des échecs de l'Europe, de n'avoir pas réussi à faire barrage et à imposer une démocratie un peu internationale, pays après pays, et de ne pas avoir réussi à endiguer ce flot du populisme. C'est peut-être aussi une des fragilités de l'Europe qui va subir ça.
Alexandre Kouchner.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à l'Europe à la fois tout et n'importe quoi. On ne peut pas lui demander de trop exister et de faire barrage aux mouvements nationaux. On ne peut pas lui demander d'incarner un espoir et en même temps d'être pas assez technocratique ou trop technocratique. En tout cas, la réalité, c'est qu'il va y avoir un groupe cohérent, puissants de partis nationalistes europhobes au Parlement. Ils n'auront peut-être pas une minorité de blocage, ils auront un pouvoir de nuisance extrêmement fort, capable de transformer l'Europe en ce qu'ils critiquent depuis le début.
À la louche, vous pensez qu'ils auront combien ? 10, 15, 20, qu'est-ce qu'on dit ?
On dit qu'ils auront à peu près 135 à 140 sièges.
Il faut
353 sièges pour faire une majorité. Donc ils ne pourront pas complètement tout bloquer. En revanche, ils auront un vrai pouvoir de nuisance. Ils auront des moyens très accrus, des moyens financiers, dont le Rassemblement National a apparemment fait un usage assez libéral lors du dernier mandat. Et ils auront surtout cette très forte victoire symbolique qui est que peut-être le troisième mouvement politique en Europe, ce sont les nationalistes.
Une victoire symbolique, certainement, mais quand on voit, on prend un petit coup de rétroviseur et on regarde ce que la droite extrême a fait au Parlement, c'est un peu fort de café d'arriver aujourd'hui et de demander à ce qu'on vote pour eux, parce qu'ils ont fonctionné comme des touristes. Ils sont arrivés, ils sont à l'origine d'aucune proposition, ils n'ont rien fait bouger, il y a de la sentence. Attends, Alexandre, mais je voudrais quand même revenir sur des choses pour savoir de quoi on parle. Parce qu'on parle de l'Europe, mais si on descend dans la rue et on demande à quelqu'un, c'est quoi l'Europe ? Moi, je voudrais quand même reposer les choses.
Non. Vous allez les reposer juste après ça. On marque une pause. Le sujet est tellement passionnant qu'on était lancé. Émilie Raffoul, vous aurez la parole juste après ceci.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 19h39, la suite de notre grand débat d'actu sur Europe 1 avec vous Philippe Vandel et vos invités. Alexandre Kouchner, co-rédacteur en chef de la revue Europe 1. Le journaliste Alex Taylor, auteur d'un livre paru chez Lattès qui a pour titre Brexit, l'autopsie d'une illusion. Et puis Émilie Raffoul, journaliste et productrice télé à 5 bis production.
Je ne perds pas une seconde Émilie Raffoul, je vous redonne la parole.
Ok, mais je voudrais qu'on sache quand même de quoi il s'agit. Il faut que les gens se rendent compte que l'Europe, c'est un espace qui nous a garanti la paix.
Ouais.
C'est un espace qui a réuni un certain nombre de... Excuse-moi Alexandre, mais c'est la réalité. En
mais
agrégeant les pays de l'Est, etc. C'est
bah
des gens qui nous
alors,
servent.
Très
Attends,
très bon
oui,
sujet.
On en parle après.
Les
oui.
pays de l'Est, justement, il y a plein de gens qui ne sont pas heureux. Il y a plein de gens qui ne sont pas heureux du plombier polonais.
Peut-être.
Il y a plein de gens qui disent l'Europe, ça va si on a un niveau de vie comparable. Et faire entrer les pays de l'Est, c'est justement, pour, c'est justement une de ces mesures qui a fait progresser le populisme. Dans,
peut-être,
en Europe.
Mais il y a aussi, grâce aux fonds européens, il y a des villes entières qui ont pu se reconstruire, devenir dynamiques, repartir sur un tissu économique. C'est aussi le seul garde-fou par rapport au coup de menton de Poutine ou de la puissance de la Chine qui monte. C'est le seul espace mondial qui a régulé la finance et c'est l'endroit aussi où il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est pas quelque chose de virtuel où ça passerait dans des chiffres de sondage, combien pèse machin, combien se pèse truc. Il y a un impact réel, direct, concret sur la vie de chacun. Et c'est important de défendre cette Europe-là. Et vraiment, je plaisante d'avance sur ce qui va se passer avec le Front National, puisqu'ils ne vont pas défendre cette Europe-là et qu'ils vont essayer de l'émietter à l'intérieur même de la bête. Je crois que ça ne va pas durer longtemps.
Alex Taylor.
Il ne faut pas oublier que le plombier polonais dont on parle, c'est aussi des centaines de milliers de Français qui ont la possibilité d'aller travailler. Il y a 300 000, 400 000 Français qui travaillent à Londres.
Ce qu'on appelle les travailleurs détachés.
La libre circulation des personnes, ça marche dans les deux sens. Les Britanniques s'en rendent compte. Maintenant, les jeunes Britanniques s'en rendent compte qu'avec le Brexit, ils ont perdu la libre circulation des personnes.
Il y a une énorme différence, c'est que les Français qui vont travailler à Londres, ils vont travailler à Londres en ayant la chance d'avoir les salaires londoniens. Alors que ce qui hérisse les gens, moi j'ai vu plein de reportages sur les routiers, c'est que les chauffeurs polonais qui roulent en France sont payés qu'un salaire polonais, donc 4 fois moins cher. Et donc, il y a un dumping social qui fait que ça crée du chômage.
Il y a un dumping social, je vais vous dire, il y a un dumping social.
Vous comparez deux choses qui ne sont pas comparables.
Il y a un dumping social qui arrange les gens aussi. Mon père, je vais vous dire, était dans une maison de soins pour Alzheimer, parce qu'il y avait l'Alzheimer, en Grande-Bretagne. 28 sur les 30 personnes qui le soignaient étaient d'origine polonaise.
Je sais.
Je vais vous dire que le santé britannique n'aurait pas pu payer cette maison s'il n'y avait pas des gens qui...
Je suis d'accord avec vous, Alex.
Il n'y avait pas de Britanniques.
Je dis juste que les gens...
Parce que les Britanniques n'investissent pas l'entraînement de leurs propres infirmières.
Alex, pardon. Je suis d'accord avec vous. Je dis juste que les gens qui bossent à la City, à Londres, ne sont pas payés que des salaires français, mais que des salaires anglais. Alexandre Kouchner.
Je voudrais que nous fassions attention à ne pas devenir ce que beaucoup d'auditeurs, ou en tout cas de lecteurs, ou en tout cas de public, reprochent aux journalistes. C'est-à-dire de devoir faire campagne et ou de défendre des choses telles qu'elles existent. La question n'est pas est-ce qu'il faut ou non une Europe, est-ce que l'Union européenne est ou non bénéfique pour ses concitoyens. C'est un fait, vous l'avez rappelé.
Mais peut-être mal connu.
Peut-être mal connu, mais
par les gens.
La réalité aujourd'hui du débat, c'est que, à cause de cette réalité mal connue, il va y avoir un troisième groupe politique fait de nationalistes, fait d'europhobes, qui vont pouvoir manipuler cet objet qu'est l'Europe. Qu'est-ce qu'ils pourraient en faire ?
C'est certain.
D'abord, ils pourraient le mettre à l'arrêt. Ça ne sera bon pour personne. Mais surtout, et c'est là le vrai problème, pour ces formations-là, il y a un vrai dilemme. S'ils votent quelque chose au Parlement européen et ils votent des directives, alors ils réalisent que l'Europe, c'est peut-être plutôt pas inutile. Mais s'ils ne votent pas, alors ils vont peut-être à l'encontre de leurs promesses de campagne. Prenons le Rassemblement national. Le Rassemblement national n'a pas voté des mesures faites pour lutter contre le terrorisme. Je pense notamment à cette liste qui recensait les passagers d'avion. Ils n'ont pas voté le renforcement du budget des gardes-frontières européens. Il y a là une vraie question, un fait qu'en tant que journaliste, on doit exposer, débattre, qui est que nous allons envoyer au Parlement européen des gens qui ne peuvent pas faire le job qu'ils promettent à leurs électeurs. Là, il y a un débat. Que le Parlement européen ou l'Europe soit mal connu, c'est un fait, il est regrettable, mais je ne pense pas que nous puissions aujourd'hui dire à des gens qui peuvent, pour certains, légitimement dire que l'Europe ne les a pas vraiment aidés, que c'est quelque chose de merveilleux. La preuve en est, le Brexit est aussi une forme de scrutin et donc une forme de volonté nationale exprimée dans des conditions hyper discutables, mais c'est quand même un fait
très
politique,
discutable.
Très discutable.
Très discutable,
très tout
ne
à fait
serait-ce
discutable.
Que pour le million de Britanniques qui ont été privés de vote, tant moi par
Absolument.
Exemple. Vous, les Français, enfin nous maintenant, parce que je suis devenu Français, ouais. Qui vivent à l'étranger en 11 députés mm-hmm. pour les représenter. Les Britanniques, qui, comme moi, qui vivent à l'étranger, dans un référendum qui nous a enlevé tout notre droit, on n'avait pas le droit de vote. Donc, si le référendum avait été 75 contre 25%, ça n'aurait aucune importance. Mm. Mais ce n'était même pas 52%. On aurait laissé les jeunes. Les jeunes avaient le droit de vote sur le référendum en Écosse, mais pas le droit de vote sur le Brexit de 16-18 ans. On aurait laissé ces deux groupes-là. On peut dire que le référendum n'était pas très démocratique. Et c'est eux qui en souffrent maintenant. Vous parlez de tout ça. C'est les Britanniques qui se rendent compte que l'Europe, justement, c'est la protection contre le poulet au chlore, la vie au corps, le bœuf aux hormones. La protection aussi, parce que maintenant, le service de santé, parce que Trump... Les Britanniques disent qu'ils vont faire un merveilleux deal commercial avec les États-Unis après le Brexit. Mais ça veut dire quoi ? Trump n'est pas un grand altruiste, que je sache.
Non.
Il veut mettre le grappin sur le système de santé britannique. C'est ça qui l'intéresse. Donc les Brexiteurs commencent à se dire bah, ils vont être obligés maintenant, en plus, de confier leur infrastructure de communication à Huawei. Parce que c'est ce que
les Chinois.
Veut faire Mrs. May. Donc, on peut reprendre le contrôle de Bruxelles pour le céder mille fois plus fort à Beijing, à Washington.
Alex Taylor, puisque vous parlez de Trump, l'architecte de sa victoire électorale, c'était Steve Bannon. Il se trouve que Steve Bannon est actuellement en France et il conseille, il cornaque...
Le Front National.
Pas seulement l'Assemblée nationale, mais plein d'autres partis en Italie, notamment Matteo Salvini, Alexandre Kouchner.
Oui, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement particulier et paradoxal pour tous ces partis nationalistes. Beaucoup ont de l'argent de l'étranger et leurs conseillers le sont souvent également. C'est-à-dire que pour défendre les intérêts de leur peuple nativiste, comme Alex le disait tout à l'heure, ils prennent conseil auprès d'influences extérieures. L'Autriche, hier, a connu un de ses derniers plus gros scandales, à la fois financiers et électoraux, sous l'influence potentiel de l'argent russe.
D'un mot, racontez ce qui s'est passé en Autriche quand même, c'est symptomatique.
En Autriche a été révélé un enregistrement qui date d'il y a 2 ans où celui qui était jusqu'à hier ou même aujourd'hui, je crois qu'il a démissionné aujourd'hui, qui était vice-chancelier, c'est-à-dire numéro 2 du gouvernement, il a été filmé en train de monter un deal avec une femme qui se faisait passer pour une proche d'un oligarque russe, où en gros il expliquait le meilleur système pour brader sa démocratie et sa pluralité des médias. La révélation est tombée, elle a mis donc fin à l'alliance entre les conservateurs et l'extrême droite en Autriche. Il y aura des nouvelles élections bientôt. Ne doutons pas que ça aura une influence évidemment sur l'élection d'abord européenne, mais aussi sur cette grande coalition, parce que c'est ça le vrai sujet. C'est quels partis vont pouvoir se mettre d'accord au sein de ce grand bloc nationaliste. Le FPO était un des leaders avec Salvini et Le Pen de ce grand bloc. Il va être fragilisé. Est-ce que ça va jouer sur les élections? C'est ça toute la question.
Le FPO, c'est le parti autrichien. Émilie Raffoul.
Il y a une autre menace dont on n'a pas parlé, c'est l'abstention, évidemment. Et là, on revient malheureusement à la question des gens, c'est-à-dire...
Justement, je comptais parler de l'abstention dans la suite, parce que le président Macron, on est ici en France, s'est mêlé dans la bataille, et je vais justement vous demander si le fait qu'il entre dans l'arène ne va pas pousser à ce que des gens aillent voter contre lui. Tout de suite après ça.
19h48, dernière partie de notre débat d'actu sur Europe 1 avec vous, Philippe Blandel, et vos invités, le journaliste Alex Taylor, Alexandre Kouchner, également co-rédacteur en chef de la revue Européen, et Émilie Raffoul, journaliste et productrice télé à 5 bis Productions.
Émilie Raffoul, tout à l'heure, pardonnez-moi, je vous ai interrompu.
Tout va bien.
Et vous êtes abstenu, et là maintenant, vous vouliez me parler de l'abstention.
Voilà. Je veux dire que, en fait, c'est très important de revenir sur les électeurs, parce qu'on peut effectivement parler comme ça d'un monde parallèle. Sur comment vont passer les votes, etc. En fait, la clé, ce sont quand même les électeurs qui vont rentrer dans l'isoloir la semaine prochaine, en tout cas en France, pour pouvoir voter. L'abstention, elle n'est pas anonyme. Elle n'est pas...
Anodine.
Anodine. L'abstention, elle fait, même si on a constaté des abstentions toutes les années, toutes les élections européennes, elle est en droite ligne de ce qui s'est passé ces dernières semaines. On ne peut pas déconnecter la prochaine élection de ce qui s'est passé sur notre pays en prochaine, les dernières semaines.
Vous voulez dire donc que les gens vont moins s'abstenir qu'auparavant, parce que c'est une élection, les élections européennes étaient celles où les Français votaient le moins.
Oui, et je veux dire que la mobilisation, là, il faut que, en tout cas, sur les dernières lignes droites, qu'on puisse convaincre les gens de pouvoir aller dans l'isoloir et peut-être de faire barrage à cette force. Est-ce que peut-être...
Ou pas.
Mais peut-être ont-ils atteint le parce que ça fait un peu retenez-moi où je fais un malheur, peut-être ils ont atteint un plafond de verre, les choses peuvent se renverser en une semaine, on ne sait pas. Mais pour revenir sur Macron, puisque vous vouliez qu'on parle de Macron.
Mais oui, je vais dire sa phrase. Il visait les gilets jaunes, c'était vendredi à Biarritz, il a dit pour celles et ceux qui continuent aujourd'hui à manifester, puisque c'était le samedi les gilets jaunes, pour celles et ceux, dit le président, qui continuent aujourd'hui à manifester, il n'y a plus de débouchés politiques. Nous avons fait notre part du travail. Maintenant, chacun doit aller voter aux élections quand il porte des idées et se présenter aux élections. Est-ce que ça ne motive pas ses adversaires à aller voter, pardon de dire ça, contre lui? Les gilets jaunes, ils ne vont pas voter La République En Marche.
Il faut faire attention avec Macron parce qu'il va peut-être être victime de son malheur.
C'était ma question.
Il choisit une tête de liste qui n'a pas le charisme peut-être qu'on aurait pu attendre, et donc il est obligé d'arriver en pompier, donc de se mettre au milieu du tableau, et donc de tout prendre l'électrochoc si jamais il arrive. Donc il est dans une situation extrêmement dangereuse. Soit ça passe, soit il se le reprend en revers dans une semaine.
Alex Taylor.
Le problème des nativistes, je persiste avec mon terme, c'est qu'ils ont tous les meilleurs parleurs. Ils ont des tribuns, ils ont des gens qui parlent très bien. C'est le cas de Nigel Farage en Grande-Bretagne. Ils ont tous ceux qui parlent. En face, il n'y a pas grand monde.
Il y a
Daniel Cohn-Bendit que je vois sur vos écrans de télévision qui sont sur une autre chaîne en ce moment même. Il y a des gens comme Guy Verhofstadt qui parlent avec beaucoup de passion. Sinon, l'Europe n'a pas vraiment des défenseurs.
Alex, je vous interromps une seconde. Macron, ce n'est pas le plus mauvais que la Terre est portée en Europe.
C'est vrai qu'il y a une balkanisation de la gauche avec des leaders qui sont pas très
au niveau. Que Macron, il va
même assez reproché d'être talentueux.
Non. Mais Macron est un défenseur de l'Europe, comme il y en a très peu dans le reste de l'Europe. Mais l'Europe manque de ces fervents européens. Et c'est le problème des populistes, c'est qu'ils ont des gens qui en parlent avec passion. C'est pour ça qu'ils motivent les foules. Farage n'a absolument pas de politique. Il ne sort pas un manifeste pour les élections européennes. Il refuse de le faire parce qu'il sait que dès lors qu'il explique ce que c'est que sa politique, les gens vont moins voter pour lui. Surtout que maintenant, ça devient de plus en plus évident que lui aussi a été financé par les Russes.
Et je me souviens, et d'un mot je vous interromps, je me souviens qu'un Nigel Farage, après la victoire du Brexit, avait disparu.
Il s'est tiré en 3 jours.
En race campagne, on ne l'a plus vu. Alexandre Kouchner.
Il y a une vraie difficulté pour le parti du président Macron. C'est que s'il ne s'implique pas, la liste ne décolle pas. Évidemment, Nathalie Loiseau essaye, comme elle peut, d'animer cette liste qui est dans un contexte terrible puisqu'elle est la représentante d'un gouvernement qu'une grande partie de nos concitoyens maintenant désavoue. Et en même temps, s'il s'implique et s'il met sa tête en grand, et ben dans ce cas-là, il électrise ses opposants. Et Marine Le Pen a eu extrêmement beau jeu très rapidement de dire « Bon, de toute façon, faut voter contre lui, comme ça, il va démissionner. » Et là, il y a quelque chose de terrible, c'est que cette ultra-nationalisation des élections masque tous les grands enjeux. Parce qu'en réalité, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va voter à Bruxelles et à Strasbourg. N'oublions jamais aussi que le Parlement siège à Strasbourg, pour tous ceux qui disent « c'est une honte, c'est Bruxelles ». Il y a aussi Strasbourg. Et là,
4 jours par mois.
Oui, mais c'est aussi sur notre territoire.
Absolument.
Donc ça existe et ils le font. Et là, il y a un vrai problème pour le président Macron qui se double là aussi d'une dimension européenne. Il ambitionne, avec son groupe des libéraux, d'être la troisième force politique. S'il perd en France, il y a des chances que son groupe politique perde également en Europe et se retrouve en quatrième position. On retombe là sur une victoire symboliste, très symbolique, des nativistes.
Émilie Raffoul.
Et il y a le problème de la troisième force, qui est la gauche. Et là, je dois dire que le tableau est terrible, parce qu'il y a une vraie balkanisation des partis de gauche, avec des leaders qui ne sont pas forcément au niveau, voire médiocres.
La balkanisation, je t'interromps, ce n'est pas aucun rapport avec M. Balkany. Comme les Balkans, c'est plein de petits partis côte à côte, qui n'arrivent pas à s'entendre.
Complètement éclatés, émiettés. Le PS a disparu derrière Glucksmann. Enfin, je veux dire, les gens ne sont pas au niveau. Et donc, Alexandre se moquait de moi avant l'antenne.
Jamais.
Mais il y a un petit frémissement autour de Yann Brossat. Ouais. Je vois. Non, mais il plaisante. Mais il a raison. Il est très peu. Mais Yann Brossat,
il est à 3% 5... dans les sondages.
Il est à 3%.
Il faut 5% pour avoir des élus.
Je sais. Mais je vois les gens. Je vois des tas de gens encore cet après-midi. Un des insoumis qui a rejoint un des intellectuels insoumis. Il y a un petit frémissement. Voilà. Je prends un petit pari, quitte à me ridiculiser dans une semaine.
Il y a un problème médiatique aussi. C'est que, à force d'écouter tous ces reportages, ces émissions, nous en faisons une en direct en ce moment sur les populistes. Il faut en faire. Mais en même temps, personne ne parle. Chaque fois qu'on parle de ce qui se passe ailleurs en Europe, on ne parle pas des Verts qui font des montées extraordinaires en Allemagne. On ne parle pas du mouvement des Verts en Grande-Bretagne. Personne n'en parle parce que tout le monde parle de Brexit, de Farage. Enfin, je peux en parler parce que je viens de sortir un livre là-dessus.
Bad news, good news. Je ne vais pas vous l'apprendre.
Oui, mais en même temps, on ne parle pas. On est complètement obnubilé par ces nativistes dans chaque pays. Chaque fois que je regarde, par exemple, des reportages sur ce qui se passe en Allemagne, on parle de l'AFD. C'est vrai que l'AFD monte. Mais on ne parle pas
Le parti ultranationaliste.
Oui, mais on ne parle pas des Verts, qui sont le parti vert, justement, on n'en parle pas.
Mais parce qu'on parle des nouveautés, c'est ça le journalisme.
Oui, mais on parle de nouveautés, mais...
Alex, vous savez mieux que personne, vous avez fait la revue de presse, on ne fait pas les trains qui sont à l'heure, on fait les trains qui ne sont pas à l'heure.
Non, moi je me targuais de ne pas faire des images caricaturales, parce que c'est très facile.
Mais ce n'est pas une caricature, donner l'info, ce n'est pas une caricature.
De dire que l'Allemagne, c'est que l'AFD, le populisme, dire que l'Italie, c'est que le populisme...
Mais on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça ici.
Ah bon, non, merci. Mais en général, chaque fois que je regarde un reportage, que ce soit, parce que je regarde beaucoup de télé étrangères aussi, chaque fois qu'on parle de l'Allemagne, c'est toujours l'AFD. On a l'impression que 80% des Allemands votent pour eux, alors que les Verts sont plus importants, plus représentés que l'AFD, de loin.
Parce qu'il y a effectivement un biais, et il est journalistique, et on en est effectivement un peu responsable. Nous ne parlons que des populistes, et on a du coup l'impression que leurs thèmes sont les vrais thèmes de campagne. Il y a beaucoup de sondages qui sont sortis dernièrement. Il y a des grandes initiatives comme We Europeans, qui est une grande consultation civique, qui ont demandé à 38 millions d'Européens ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendaient de l'Europe. 4% de leurs réponses, 4%, concernent l'immigration et les problèmes de sécurité. C'est le 27e sujet. Ce que les Européens attendent, ce sont des actions fortes et concrètes pour l'environnement et la protection sociale. Et ça, ça intéresse les électeurs. Et c'est ça, normalement, qui devrait galvaniser une forme de parti, en tout cas tous les partis de gauche. Et il y a là quelque chose de vraiment paradoxal.
C'est le mot de la fin.
Les Verts montent partout, sauf en France. Et là où, et c'est le cas en Pologne, les partis de gauche et d'opposition aux nativistes ont fait une coalition, ils montent. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de s'entendre quand on pense déjà la même chose ?
Oh dis donc, c'est le problème de la vie ça. Merci beaucoup Alexandre Kouchner, co-rédacteur en chef de la revue Européen, dont le deuxième numéro vient de sortir là aujourd'hui, c'est tout chaud. Alex Taylor, merci à vous, journaliste, votre dernier ouvrage paru c'est Brexit, l'autopsie d'une illusion. Et Émilie Raffoul, merci à vous, journaliste, productrice télé à 5 bis production. Merci d'avoir été avec nous avec ce franc-parler et votre savoir dans ce débat. Dans un instant... La soirée continue, on va retrouver Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel, programme un peu particulier.
Programme particulier, mais programme somptueux avec Guy Forget, directeur du tournoi de Roland-Garros, dont les qualifications démarrent demain. On est à 8 jours de la quinzaine de Roland. Il sera l'invité des auditrices et des auditeurs d'Europe 1. Il n'élude aucune question.
Formidable, merci beaucoup. Nous, on se retrouve samedi prochain à 18h. Salut Marlène.
Salut Philippe.
Bon week-end, bonne semaine. Mais non, il est terminé le week-end. Bonne soirée, bonne semaine à tous en écoutant Europe. Bonne soirée sur Europe, à plus.